FPMU.fr est fier de soutenir Vue du Banc. Parce que pour bien parier, il faut bien comprendre le jeu.
Salut à tous, bienvenue pour le 44e épisode de la saison 5 de Vue du Banc. Un épisode un peu spécial, le hors-série qu'on fait chaque année consacré au top 15 des jeunes de Ligue 1. Pour cet épisode, comme d'habitude, je suis avec mes deux compères, Caradoc et Perceval. Caradoc, c'est Florent Tonuti, salut Florent.
Salut.
Et Perceval, c'est Raphaël Cosmidi, salut Raphaël.
Pourquoi m'attribuer ce nom-là, Christophe? Bonjour en tout cas.
Il n'y avait pas de vainqueur dans les deux.
Donc, oui, certes.
Donc c'était un peu à pile ou face, sachant qu'aucun de vous deux n'est particulièrement gros. C'était un peu au hasard. Alors messieurs, comme je le disais, le top 15 qu'on fait chaque année pour la troisième année consécutive, donc spécial Ligue 1. Et Florent, si on rappelle les règles, c'est les gens nés après le 1er janvier 99, c'est bien ça?
98, c'est bien.
98, ça commence très bien.
Ça commence merveilleusement.
Vous voulez pas qu'on recommence?
Non, ça va. Non, après le 1er janvier 98, en effet. Et ensuite, donc, chacun d'entre nous a donné une liste de 15 joueurs. Et pour qu'un joueur apparaisse dans la liste, il fallait qu'il soit au moins cité deux fois. Sachant qu'il a fallu un petit peu batailler et rejouer, on va dire, refaire le jeu pour la dernière place. Et puis voilà, mais on en a 15, on a réussi à y arriver, même si c'était peut-être un peu plus compliqué que les deux années précédentes.
Ouais, c'est ça, c'est la règle de départ était qu'il fallait que la personne soit citée deux fois pour figurer, et puis ensuite on faisait ça en système de points de 1 à 15, comme on fait nos power rankings, etc. Sauf que là, il n'y avait que 14 joueurs qui étaient cités deux fois. Donc pour le 15e, il a fallu négocier un peu. On va faire ça comme les années précédentes, de la 15e à la première place, même si ceux qui ont un peu en tête l'âge de certains joueurs de Ligue 1 devineront qui est le premier, peut-être même qui est deuxième. Donc si on commence par la 15e place, Florent, là où il y a eu le plus gros débat, on a fini par tomber sur Fethou Mawassa.
Oui. Le latéral gauche de Nîmes, ex-milieu de terrain, enfin ailier même, est reconverti à ce poste de latéral cette saison. Je ne sais plus s'il avait été installé avant.
Il avait déjà joué un peu latéral gauche à Rennes avant même de venir à Nîmes.
Alors voilà, si vous entendez le ton de Raph, lui n'était pas pour Mawassa. Ça s'est joué entre deux joueurs, c'était Mawassa et Sofiane Diop de Monaco.
Enfin, sachant que c'était... Aucune des deux n'était ma priorité, ça d'ailleurs nous a mené à une petite embrouille sur Facebook, sur la préparation du podcast, mais je dirais pourquoi, notamment je nommerai ceux que j'aurais préféré voir à cette 15e place tout à l'heure.
Voilà, alors moi pourquoi je l'ai retenu, moi je crois que je l'ai mis dans mes 15 au départ, simplement parce que c'est déjà un poste un peu sinistré en France, le poste de latéral gauche, sachant qu'on imagine, ce top 15 c'est notamment aussi pour imaginer jusqu'où ces joueurs peuvent aller et jusqu'à quel niveau, quelle carrière ils peuvent faire, et le fait déjà qu'il y ait assez peu de latéraux gauche en France, en tout cas chez les jeunes qui commencent à percer, ça peut lui ouvrir une porte, sachant que c'est quelqu'un qui a de vraies qualités, on va dire d'abord athlétique. Les allers-retours dans son couloir, c'est pas quelque chose qui lui fait peur. Défensivement, cette saison, il a fait, en tout cas sur les quelques matchs de Nîmes que j'ai vus, il a fait une saison plutôt correcte à un poste qui n'était donc pas vraiment le sien jusque-là. Là, cette année, il y a vraiment été installé. Et donc ça, déjà... on n'est pas sur un joueur qui a amené directement des buts avec des erreurs ou des choses comme ça. Il a emmagasiné quand même pas mal de bonnes séquences sur le plan défensif. C'est un joueur qui se fait rarement éliminer. J'avais regardé en termes de tacles manqués, il en rate 0,4 par match pour 2 tacles réussis. Après reste la question de son apport offensif. Mais là, il y a la question du contexte à Nîmes qui fait qu'il n'est pas forcément amené à beaucoup monter. Nîmes, c'est une équipe qui pratique un jeu très direct, avec des attaquants qui bougent beaucoup et au final un rôle assez limité pour les latéraux des deux côtés, ce qui fait qu'il a des stats assez faibles. Il a mis qu'une passe décisive, je crois, cette saison. Et je crois qu'en termes de XG et XA, il est très très bas aujourd'hui. Je pense que Raph pourra le confirmer s'il a les chiffres sous les yeux. Mais donc il y a vraiment un apport offensif qui est améliorable et qu'il doit travailler, notamment dans la manière de repérer les triangles, parce que maintenant il joue plus ailier, il joue latéral, donc il part de plus loin. Faut repérer avec qui combiner, faut repérer comment se lancer dans l'espace, quels espaces attaquer, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de boulot, mais je me dis que défensivement il y a déjà une base plutôt intéressante, et ensuite ça dépendra aussi des choix de carrière et des clubs où il se retrouvera, puisqu'aujourd'hui il est prêté par le Stade Rennais. Mais peut-être que par exemple l'année prochaine, s'il rentre à Rennes, dans le système de Stéphan, qui aime bien justement construire avec beaucoup de triangles sur les côtés, cette année ils avaient un côté fort à droite, peut-être que Stéphan va tenter de rééquilibrer les choses en ayant un côté gauche aussi actif, et peut-être qu'à ce moment-là, Mawassa pourrait beaucoup progresser dans la lecture du jeu offensif et tout simplement augmenter son apport et donc derrière ses stats en tant que latéral.
Il y a 0,59 d'expected assist cette saison.
Oui,
C'est en
c'est très faible.
effet
Mais c'est
très
pareil.
faible pour un latéral. Après, à Rennes, il y aurait la concurrence de Ben Sebaini et de
Ouais.
Léa Siliki qui a déjà joué à ce poste, qui a un profil peut-être plus de relayeur que de latéral gauche, mais qui lui aussi est capable d'être reconverti.
Moi, ce qui m'a fait le choisir, alors on va être clair, hein, sur le bas du tableau, du top 15, c'est quand même pas du très très haut niveau. C'est des joueurs corrects de Ligue 1, mais c'est sûr que, a priori, la plupart ne deviendront pas des stars du foot. Mais c'est vrai que de me dire qu'il est déjà bien installé dans une équipe de Nîmes qui est 9e de Ligue 1 à son âge, alors qu'il découvre ce poste-là, et que justement, sa marge de progression soit sur l'apport offensif, alors qu'au départ, c'était plutôt ses qualités, puisqu'il vient de plus haut sur le terrain, je me dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément exploité. Alors bien sûr, au niveau du positionnement notamment, il peut faire des progrès, mais que déjà il puisse être compétent défensivement alors qu'il vient de plus haut, je me dis que s'il arrive à retrouver certains instincts de son poste plus offensif, effectivement, comme tu disais Florent, savoir comment se lancer, comment pouvoir se retrouver dans cette position un peu plus avancée, c'est au moins tout ce qui est qualité athlétique, etc. Il l'a. Après, il faudra que tout se mette en place, mais au moins il y a une petite base et tu te dis que c'est vrai qu'à ce poste-là, son profil peut lui permettre de faire une carrière, déjà de faire une carrière en Ligue 1 pendant 5-10 ans, ça serait déjà très honnête par rapport à
Après,
la moyenne des pros, quoi.
il y a un truc sur lequel je suis d'accord avec vous, même si je l'aurais pas mis dans les, je l'ai pas mis derrière dans les 15, c'est que son repositionnement, pardon, est plutôt bénéfique pour lui, parce que je le vois pas faire des différences ou faire une énorme carrière en tant qu'ailier gauche ou même ailier droit. Il avait joué un peu à ce poste-là, je crois qu'à Nancy, il jouait aussi haut. En équipe de France de jeunes, il jouait à ce poste-là. Depuis qu'il a joué à ce poste-là, notamment avec Gourcuff-Aren, c'était très compliqué. Et le faire redescendre lui sera peut-être, je pense, une bonne chose pour lui sur le long terme en tout cas, et peut-être qu'il ira plus haut à ce poste-là qu'au poste d'ailier où il y a quand même beaucoup plus de talent
Il y
en
a
général.
juste une dernière chose pour éviter de faire beaucoup trop long, parce que là, ça fait déjà pas mal. C'est juste de signaler aussi que peut-être que dans un système à 3 derrière et en piston sur un côté où il aurait peut-être beaucoup plus d'espace, peut-être qu'il aurait encore plus d'opportunités de montrer ses qualités, où là, les latéraux sont un peu laissés seuls, mais voilà, ils ont de l'espace, ils peuvent s'appuyer sur leur vitesse, etc. Et là, un système en 3-4-3 ou 3-5-2, il aurait peut-être encore plus les qualités pour se montrer offensivement, et en tout cas se montrer rapidement dans de meilleures dispositions, sachant que là, dans la situation aujourd'hui à 4 derrière, voilà, faut plus travailler collectivement, j'en parlais tout à l'heure, des jeux à 3, etc. Et du coup, ça prend peut-être un peu plus de temps pour repérer les bonnes situations.
Donc Mawassa, juillet 98, donc il fait partie des gens les plus âgés de ce top, dont quelques membres ont 21 ans et les autres en dessous. Là maintenant, je pense que c'est le plus jeune, si je dis pas de bêtises. Mars 2001, c'est William Saliba, Raphaël.
Oui.
Je crois que d'ailleurs, juste avant qu'on commence ce podcast, tu étais en train de regarder des vidéos de lui.
Oui.
Alors, classement un peu bâtard, dans le sens où on le met, mais... Disons que s'il avait un peu plus de matchs, on le mettrait peut-être beaucoup plus haut. Là,
Oui,
il a
ouais.
9 titularisations en Ligue 1, donc c'est-à-dire c'est un peu un vote, comment dire. C'est pour quand même dire d'en parler, mais c'est difficile de le mettre 4-5e sur un volume de match aussi faible.
Oui, même si en effet, comme tu le dis, c'est peut-être un de ceux qui ira le plus haut, sachant que quand là, mars 2001, donc il a eu 18 ans, c'est en effet un des plus jeunes qui joue, et en Ligue 1, de voir un défenseur central de 18 ans jouer, forcément, ça provoque des comparaisons, il y en a déjà qui ont été faites avec Varane. Alors c'est peut-être un joueur qui est peut-être moins fort défensivement que Varane, aussi bien en termes athlétiques que physiques, c'est-à-dire qu'il va peut-être moins vite que Varane, il va être moins dur sur le duel que Varane l'était en début de carrière. Par contre, techniquement, dans la relance, il prend déjà plus de risques, peut-être plus que n'en prend Varane aujourd'hui d'ailleurs. Il réussit pas toutes ses prises de risques, mais il est capable de résister à la pression, il arrive bien à feinter avec l'orientation de son corps quand un gars vient de presser, sort sur lui pour trouver des solutions de passe, et c'est ça que j'ai trouvé notamment intéressant. J'avais vu passer une petite vidéo il y a quelques semaines de ça, quand il avait commencé à être titulaire, où ça m'avait intrigué. Ensuite, il avait continué à jouer avec Saint-Étienne. Alors, il joue dans une équipe qui fonctionne bien et qui défensivement est aidée aussi par des bons joueurs. Et ça joue aussi peut-être sur son intégration rapide. Mais c'est vrai qu'il a un bagage, mais il a une question des qualités, disons, de gabarit. Il est long, il est grand. qui peut-être vont réussir à le démarquer plus vite que d'autres joueurs comme Koundé ou Camara dont on va parler après, qui eux ont ce problème de taille qui peut poser problème dans certains championnats. Donc là, c'est en effet un joueur qui a toutes les qualités pour s'intégrer vite dans un club, par exemple, de première ligue, ou même un club espagnol qui voudrait relancer un peu proprement et compter sur cette taille-là défensivement.
Florent, quelque chose à rajouter sur Saliba?
Bah, moi personnellement je l'ai vu face à Bordeaux là récemment. Je crois que Raph a vu pas mal aussi d'extraits de ce match-là où il avait été particulièrement bon, même si en face c'était pas la meilleure attaque de Ligue 1. Après moi je l'avais vu notamment en Gambardella, et c'est juste pour signaler ça, c'est que en Gambardella tu sentais déjà, je l'ai vu, bah justement c'était face à Bordeaux la demi-finale remportée 1-0 je crois par Saint-Étienne. Tu sentais déjà en fait le joueur qui était prêt pour le niveau au-dessus. Il y avait donc forcément 22 joueurs sur le terrain. Il n'y en avait qu'un qui paraissait vraiment prêt et vraiment serein et vraiment maître de toutes les situations, c'était lui. Donc déjà chez les U19, c'est-à-dire sa catégorie d'âge encore, tu sentais déjà qu'il était une voire deux classes au-dessus des autres. Et du coup, le fait de le voir ensuite enchaîner justement face à Bordeaux quasiment dans la foulée, ou je sais plus si c'était juste avant ou juste après, enfin bref. Mais réussir à le voir enchaîner en Ligue 1 et le voir arriver à ce niveau-là et s'y intégrer très facilement, même si, comme le disait Raphaël, il est encadré quand même par. D'un côté, il a Loïc Perrin, de l'autre, Mathieu Debuchy. Donc c'est vrai qu'en termes d'expérience, etc., je pense que ça te met en confiance. Mais le voir rentrer aussi facilement dans l'équipe de Saint-Étienne, un peu à la manière de Badiachil, dont on parlera après avec Monaco, mais dans un contexte qui était par contre beaucoup plus compliqué, bah ça rend forcément optimiste pour la suite, parce que c'est vrai qu'en plus, un défenseur de cette taille, né en 2001, et en plus avec cette qualité technique qu'évoquait Raphaël, parce que quand je vois ses passes réussies, il oscille entre 80 et 90% quasiment à chaque match, tu peux te dire qu'il coche déjà beaucoup de cases pour intéresser beaucoup de clubs d'ici 1 à 2 ans, si c'est pas déjà le cas d'ailleurs.
Et comme je le disais, c'est un faux 14e, c'est-à-dire que je pense qu'intrinsèquement, sur ce qu'on voit, il est bien au-dessus de pas mal de joueurs qui seront mieux classés que lui. Maintenant, son volume d'apparition est tellement faible pour l'instant qu'on est obligé de lui mettre un petit malus. Donc, parce que forcément, si ça se trouve, il va faire 3-4 mauvais matchs, il va sortir de l'équipe et c'est Subotic qui va revenir. Donc, c'est sûr qu'il est pénalisé par ça, mais je pense que l'année prochaine, parce qu'il sera encore largement éligible, son classement pourrait évoluer dans le bon sens si tout se passe bien. Juste au-dessus de lui, c'est un Toulousain, là aussi, Février 98, donc lui, c'est vraiment l'extrême inverse du top niveau âge. C'est Kelvin Amiens, Florent.
Oui, alors Kelvin Amiens, c'est un petit peu la palme on va dire à la polyvalence, parce que c'est un joueur qui, en plus, dans une équipe de Toulouse qui change très souvent de système et Casanova change très souvent les joueurs de poste. Amiens, c'est un joueur que j'ai pu voir évoluer cette saison au poste de latéral dans une défense à 4, au poste de latéral dans une défense à 3, enfin donc en piston quoi, avancé, au poste de stoppeur droit dans une défense à 3, au poste de défenseur central dans une défense à 4. Enfin bref, il a quasiment un peu tout fait. Et il y a même des situations où lorsqu'il évoluait latéral, parce que Casanova ne, ne enfin, essaie de jouer un petit peu à l'espagnol et veut notamment ne veut pas notamment avoir deux joueurs sur la même ligne verticale, notamment sur les côtés. C'est-à-dire que si l'ailier joue collé à la ligne, il faut que le latéral propose des solutions à l'intérieur. Donc on a même vu Kelvin Amiens jouer entre les lignes adverses. Donc voilà. Évidemment, tout n'était pas parfait, hein. Il y a certains registres où il est vraiment pas fait pour ça. Mais dans le foot actuel, une telle polyvalence est souvent récompensée et souvent très recherchée par les grands clubs, que ce soit, enfin par les grands clubs, en tout cas par les clubs qui vont jouer l'Europe et qui vont avoir des matchs aller-retour notamment à disputer, et qui ont besoin de cette polyvalence pour pouvoir s'adapter tactiquement à certaines situations. Et ce qu'il est en train de faire à Toulouse, et sa saison où il est un peu partout sur le terrain et plutôt correct en moyenne à chaque fois, je pense que ça m'amène à dire que c'est un joueur qui va assez rapidement, je pense, partir de Toulouse et trouver un rôle à jouer, alors peut-être et même sans doute dans un club de deuxième plan, peut-être en Angleterre, Avant,
Ouais, c'est
ensuite, si ça
ça la
marche
question,
bien.
c'est son plafond, ouais.
Ouais, avant, ensuite, si ça fonctionne bien, d'aller chercher plus haut. Après, sur les qualités intrinsèques, le problème justement d'être un peu partout à la fois, c'est qu'il n'a pas le temps non plus de se fixer à un poste et de montrer exactement ce qu'il sait faire match après match, semaine après semaine. Donc aujourd'hui, tu peux simplement parler de ses qualités dans les duels, d'une certaine qualité pour porter la balle et pour conduire la relance, mais. C'est pas quelque chose qu'on va lui demander chaque semaine, donc on va le voir intéressant dans ce domaine une fois, et puis la semaine suivante, pas du tout, parce que la configuration du match aura totalement changé, ce sera pas le même adversaire, et Toulouse jouera différemment. Donc il y a ce problème-là aujourd'hui qui nous empêche vraiment de savoir jusqu'où il peut aller, mais il a déjà cette polyvalence qui, je pense, en fera un profil assez recherché d'ici 2, peut-être 3 ans.
Raphaël, c'est le genre de joueur qui, contrairement par exemple à des ailiers ultra spécialisés qui peuvent dynamiter un match et qui le suivant vont être assez cataclysmiques, qui est beaucoup plus régulier, alors son poste défensif l'exige aussi, mais qui peuvent monter moins haut a priori parce qu'ils n'ont pas vraiment une qualité qui ressort. Donc tu te dis, bah, logiquement, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas carrière, mais enfin, il y a peu de chances qu'il se retrouve dans un club qui joue la Ligue des Champions. Hein. Enfin, A priori, ça sera un petit peu mieux que Toulouse pendant toute sa carrière, mais sauf s'il passe vraiment un cap sur un domaine précis, c'est compliqué de l'imaginer beaucoup plus haut que, je sais pas, Bournemouth ou des clubs comme ça, quoi.
Bah, c'est le problème, ouais. Ça fait quand même 3 ans là, c'est sa troisième saison en tant que titulaire à Toulouse. Et il a joué à chaque fois de manière très très régulière. Il est souvent quand même là pour disputer les 90 minutes. Et pourtant, tu vois pas quand tu le vois jouer vraiment un point fort, aussi bien en termes de stats qu'en termes visuels. Sur ses 7500 minutes de Ligue 1, il a 2 passes D. Donc pour un futur latéral ou un potentiel latéral, ça paraît limité, à part si vraiment il est inclus dans une équipe qui lui demande pas forcément beaucoup dans les 30 derniers mètres. Ça peut être le cas. Il y a beaucoup d'équipes qui passent la majorité de leur match plus sans ballon qu'avec. Donc ça peut être un projet. Mais en effet, c'est l'inverse de Saliba, où tu sens sur 5, 6, 7 apparitions qu'il a des top qualités qui peuvent l'emmener très haut. Là, Amiens, c'est plus la régularité, le fait d'être disponible, d'être rarement blessé, parce que c'est aussi son cas, de jouer très souvent. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas cette qualité 9, 10 sur 10, 8 sur 10 qui peut justifier un transfert vers un très gros club. Mais quand tu regardes les tops des années précédentes, tous ceux qu'on avait dans nos 15 n'ont pas forcément fait depuis des très grandes carrières. Donc déjà, une bonne carrière de Ligue 1 ou en Première Ligue dans un club de niveau intermédiaire, je pense que c'est le plus probable pour lui.
C'est vrai que là, je regardais, c'était peut-être il y a 2 ans où parmi les bien classés, tu avais un Bosquilla, par exemple, tu te dis, est-ce qu'il a progressé à la fois dans son jeu et dans sa carrière, dans son club en 2 ans, c'est pas sûr. Il y a pas mal de joueurs comme ça où au final, bah, leur situation à 22-23 ans n'est pas forcément meilleure qu'à 20 ans.
Bah, c'est ça, dès
Donc,
qu'on sort du top 7, top 8, ça devient compliqué. Hein. Là, je regarde 2016-2017, on a du Almami Touré, qui a légèrement disparu, Bosquilia, Valentin Vada, Amine Harit, Aït Bennacer, qui sur le plan du jeu n'ont pas fait d'incroyables progrès depuis ce qu'on entrevoyait à l'époque. Et de l'année d'après, 2017-2018, tu as du Ludovic Blas, qui plafonne un peu. Joris Gnagnon, ça se passe relativement bien à Séville. Touzard aussi stagne un peu. Et derrière, tu as des joueurs qu'on a peut-être un peu mésestimés, comme Alban Lafont, qui joue maintenant à Fiorentina, mais il avait un cas aussi particulier où il jouait très jeune. Et d'ailleurs, je crois que c'est à peu près la même génération qu'Amiens, si je me trompe pas.
il a ouais,
Donc,
99 Lafond et Amiens est
ouais.
98, je crois.
Donc voilà, mais c'est vrai que quand tu sors des joueurs que tu as vraiment envie de mettre, après, leur carrière peut prendre des tournures assez imprévisibles.
Il y a donc, tu citais, n'a pas joué de la saison à Séville, hein, donc ça fait partie. Il a 3 titularisations en Liga, il a juste joué sur les tours préliminaires de poule à Séville en Ligue Europa, donc ça fait partie des
Donc c'est
joueurs.
encore moins bien que ce que je pensais.
Ça fait partie des joueurs dont le niveau intrinsèque n'est pas forcément à mettre en question, mais tu peux te poser la question du choix de club. En plus, Séville qui a longtemps joué à 3, donc tu te dis à 3 centraux, si tu fais pas partie de ces 3 centraux-là, c'est un peu.
C'est vrai que Gnagnon, quand tu voyais ses qualités athlétiques et duel aérien, t'imaginais plus la première ligue que Séville.
Voilà. Le numéro supérieur, c'est le 12, si je dis pas de bêtises, c'est Moussa Diaby, Raphaël, non.
Oui, alors ça c'est un cas très particulier parce qu'en même temps c'est quelqu'un qui parmi ce top 15 peut-être est le plus décisif en termes de minutes jouées, de rapport d'action décisive par minute jouée, à l'exception du numéro 1 évidemment. Mais c'est quelqu'un qui a montré de vraies qualités, par contre qui a montré de vraies lacunes aussi, où je trouve par exemple que sur sa première touche, sur sa prise de balle, c'est assez aléatoire. Après, une fois qu'il est lancé, il a une vraie qualité de pied, il peut conduire le ballon, il peut percuter, il peut casser des lignes, il prend plutôt des bonnes décisions dans les 30 derniers mètres. Donc peut-être qu'on le place bas, là, 12e, mais c'est aussi le contexte parisien qui favorise les joueurs comme ça, qui entrent 30 minutes contre des équipes qui défendent plus vraiment, qui en ont déjà pris 2 ou 3 parfois. Lui apporte cette explosivité, cette vitesse face à des adversaires fatigués, et puis il profite aussi de la tension qui est concentrée sur d'autres joueurs. Donc c'est un joueur qui est difficile à estimer aujourd'hui. Quand on fait la comparaison, on avait mis par exemple il y a 3 ans, on avait mis Ikoné quand il sortait de sa saison où il avait joué au PSG de la première partie, au
Ouais.
Montpellier de la deuxième.
Nkunku l'année dernière aussi.
Ouais, mais c'est
Exactement
deux
le même délire.
profils. Mais par contre, c'est deux profils différents
Oui.
où je pense qu'il connaît, c'est un joueur fin qui a une bonne vision du jeu, qui a peut-être moins de qualité d'explosivité. Diaby, c'est vraiment une fusée, quelqu'un qui a énormément d'énergie sur les 10-15 premiers mètres pour faire la différence, mais qui par contre va moins s'intégrer à l'intérieur du jeu dans des circuits de passe un peu plus courts. Donc c'est un joueur beaucoup plus amené à jouer sur le côté et qui par contre a des qualités très fortes qui peuvent l'amener dans des bons clubs, notamment en Angleterre par exemple.
Florent, est-ce que tu vois plus ses qualités, comme disait Raphaël, d'explosivité, etc. Ou alors plus le fait que des fois, soit sur l'intelligence de jeu, il va un peu s'enfermer, ou sur la conduite de balle, parfois tu as un peu l'impression qu'il va tellement vite que du coup la balle, bon, il la conduit, mais c'est pas tout le temps maîtrisé. Qu'est-ce que tu vois pour la suite, de ce joueur qui est né en 99, donc qui a même pas 20 ans?
Bah, c'est un joueur intéressant en fin de. C'est un joueur qui pourrait peut-être s'intégrer dans un système où il est vraiment amené à coller la ligne et à n'intervenir qu'à la fin, quoi, pour être l'homme du 1 contre 1, du dernier 1 contre 1, dans un système à la Guardiola, par exemple. Je dis pas qu'il va finir à Guardiola, mais qu'il pourrait terminer des actions de cette manière-là, ou bien un piston. De toute façon, je crois que c'est comme ça que Tuchel l'utilise, en piston droit la plupart du temps. Avec
Ouais,
le
il a joué à
PSG,
droite, il a joué à
il a
gauche,
joué un peu partout de toute façon.
surtout
Ouais.
à gauche, parce que comme ça, il est sur son meilleur pied pour faire la différence dans les couloirs et c'est plus facile pour lui. Mais c'est vrai qu'il peut jouer partout sur le côté. Je pense que tu peux même imaginer, ouais, latéral dans une équipe très offensive, par exemple.
Ouais, voilà. Mais c'est sûr que l'imaginer dans un rôle intérieur, aller combiner dans des petits espaces, justement, Raphaël le compare avec Ikoné. C'est vrai que on est vraiment à l'opposé. Après. Quand tu vois ses chiffres et notamment ses expected assists par 90, il a mis 6 passes décisives, je crois, depuis le début de la saison en championnat. Il a dû en mettre un peu plus si on compte peut-être des matchs en Ligue des Champions où il est apparu. Je sais pas, j'ai pas
Ouais,
les chiffres sous les
il a
yeux.
fait que 7 minutes en Ligue des Champions, 1100 minutes en Ligue 1, 2 buts et 6 passes décisives, ce qui est quand même un très bon ratio, mais après il y a le contexte de ces minutes disputées aussi.
Oui, évidemment, mais c'est vrai qu'en termes d'expected assist, il est, je crois, si on prend des joueurs à plus de 1000 minutes, je suis sur Understat là, et je crois qu'il est troisième au classement, mais troisième derrière deux autres Parisiens qui sont Neymar et Daniel Alves, qui sont à 0,56 et 0,41, lui est à 0,35. Donc déjà, rien que ça, rien que ce chiffre-là, ça doit mettre la puce à l'oreille à certains recruteurs et peut-être aussi au PSG l'année prochaine. Après, le problème pour lui, c'est peut-être le même problème que pour Ikoné. Puis pour Nkunku la saison dernière, c'est quelle place il va avoir et quel temps de jeu va-t-il avoir sur les saisons à venir, parce que il a un âge où il doit jouer. Et quand tu vois ce qui arrive à Nkunku, qui fait une bonne saison l'an dernier avec Emery et qui n'a pas réussi à avoir vraiment du temps de jeu pour vraiment se montrer cette saison, on peut se demander ce qui va se passer avec Diaby la saison prochaine.
Un joueur, alors je pensais que Saliba était le plus jeune, et non, un joueur 2 jours plus jeune que Saliba en 11e position. Florence, c'est Benoît Badiachil, le stoppeur monégasque.
Oui, bah Badiachil, je parlais tout à l'heure de Saliba et j'évoquais le contexte peut-être favorable pour qu'il puisse arriver et se montrer sous son meilleur jour avec l'équipe première de Saint-Etienne. Là, Badiachil, il a débarqué quand même dans l'équipe de Monaco alors que c'était la débandade totale et c'est un joueur qui est sorti du lot assez rapidement pour son calme, pour sa
Son
tranquillité, je trouve, derrière. Oui.
pied gauche aussi, je crois.
Ouais, son pied gauche aussi. Mais bref, il a éclos dans un contexte très très compliqué. Donc déjà rien que ça pour un jeune joueur, je pense que ça doit lui offrir quelques points bonus. Et puis ensuite en termes de qualité, bah on va utiliser la comparaison classique maintenant d'un jeune joueur qui arrive dans une équipe et qui a sans doute le potentiel pour partir en première ligue d'ici 2-3 ans. C'était Issa Diop à Toulouse, qui a fait ses 3 ou 4 saisons avec le TFC en s'installant très tôt dans le 11 de départ, et puis qui a fait ses saisons, et puis qui est parti pour 25 millions, je crois, à West Ham. Je pense que Badiachil, à minima, c'est ce qui devrait lui arriver avec Monaco. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il partira à West Ham ou est-ce qu'il partira directement dans un club de plus grande envergure?
Sachant que Diop, sur ce qu'il montre à West Ham, c'est loin d'être. Enfin, je pense que ça sera qu'une étape. A priori, il peut être amené à aller plus haut, vu que c'est généralement l'un des meilleurs défenseurs, peut-être pas de première ligue, mais en tout cas de son club et de ses clubs de second rang. Et Badia Shield, tu le disais, enfin, à la fois calme sur le terrain, mais même, enfin, sur tout l'aspect extra-sportif, dans la mesure où, en gros, quand tout le club partait un peu en vrille, ça faisait partie des gens qui étaient les plus réguliers, qui tenaient un peu le cap, alors que certains plus expérimentés, comme Glick, coulaient complètement. Naldo, qui arrivait ultra expérimenté aussi, qui prend rouge sur ses premières apparitions. Tu te dis que là aussi, à la fois sur le terrain, mais même dans la gestion émotionnelle ou autre, par rapport aux autres jeunes monégasques qui ont été lancés, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont été testés, notamment quand Thierry Henry est arrivé et qu'il fallait jouer la Ligue des Champions avec des équipes bis. C'est peut-être pas celui qui ira le plus haut, parce que il y a les Massengo, etc., qu'on a vu de manière épisodique, qui sont encore très jeunes, qui sont à des postes où c'est peut-être plus difficile de s'imposer à la fois vu l'effectif et à cet âge-là. Mais en tout cas, c'est celui qui a peut-être la plus grosse capacité à passer un cap d'ici 1 ou 2 ans, et en tout cas à rester installé titulaire.
En tout cas, la jeunesse des défenseurs centraux français et la formation des défenseurs centraux, hein, quand même un truc qui ressort de stop encore une fois, mais comme les années précédentes,
Ouais.
où il y avait du Mukiele, il y avait du Issa Diop qui avait été cité, je crois, il y a 3 ans de ça, quand on avait fait sur les cahiers du foot, du Joris Gnagnon, enfin, à ce poste-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui sortent et c'est difficile parfois de les estimer rapidement.
Le numéro 10, c'est Manu Garcia. Alors lui, 2 janvier 98, donc il passe vraiment le cut tout juste. Florent, milieu qui joue à Toulouse.
Ouais, milieu qui joue à Toulouse, qui a beaucoup joué en début de saison, qu'on a un peu moins vu par la suite, quand Casanova a décidé de blinder son milieu avec deux joueurs de 2 mètres quasiment, avec Sangaré et je crois que c'est Sidibé qui était à côté, qui est un de Milan aussi qu'on aurait peut-être cité, mais il y avait finalement d'autres joueurs qui ressortaient avant. Ben Manu Garcia, ben c'est l'opposé, hein. C'est un joueur très intéressant en début de saison, parce qu'il apportait justement quelque chose de différent à cette équipe de Toulouse. Beaucoup de disponibilité, qualité technique, capacité et envie aussi de jouer vers l'avant. Donc Casanova l'avait d'abord mis aux côtés de Sangaré, puis après il a joué un peu plus haut, après il a finalement moins joué, et au final là dernièrement il apparaît beaucoup moins dans l'équipe de Toulouse qui doit encore se sauver. C'est peut-être aussi pour ça qu'il est sorti de l'équipe. Bon, après ça c'est les choix du coach, mais ouais, bah, c'est un joueur qui a le profil du milieu espagnol, qui va peut-être pas forcément faire grande carrière en Ligue 1, mais qui aura un petit spot garanti sans doute en Liga d'ici 1 à 2 saisons, peut-être en tant que titulaire. Une carrière soit à la Dardère, je crois que c'est Raphaël, tu parlais de Samu Saiz aussi.
Ouais. Bah, c'est parce qu'en termes de taille et d'inspiration, c'est un peu la même chose. Après, Samuel Salis a des chiffres de créativité que Manu Garcia n'a pas encore.
Oui, ça c'est clair, ouais, parce que quand on regarde les chiffres, en expected goals par 90, il a 0,03. Expected assist, il a 0,09. Donc on est assez bas à ce niveau-là. Mais c'est vrai aussi que c'est un joueur qui jouait plus bas sur le terrain et qui laissait, on va dire, la créativité à des joueurs comme Durmaz, comme Gradel, comme Dosevi, puis ça passait beaucoup par les côtés après. Quand on regarde par contre son XG build-up, c'est-à-dire sa capacité à participer aux actions, mais à ne pas être à la fin, c'est-à-dire ne pas être à la passe-clé ou à la finition, il est à 0,20, et là je pense que ça le met un peu plus haut déjà du côté du TEF.
Moi, je l'imagine bien. Raphaël, par exemple, à Gérone l'an prochain, si je dis pas de bêtises, il appartient toujours à Manchester City,
Ouais.
dont Gérone est un club. Alors, je sais pas si c'est officiellement partenaire, mais en tout cas, ça appartient directement aux frères de Guardiola. Donc, ça reste le City Group dans sa manière élargie. Et c'est vrai que des profils comme ça, par exemple, là, je fais un peu mon hipster Liga, mais à la place d'Alex Granel en tant que régulateur du jeu au milieu de terrain dans un club de Liga de second rang. Des joueurs de ce niveau-là peuvent s'intégrer et faire une petite carrière pendant 7-8 ans à jouer plutôt en deuxième partie de Liga, mais à jouer alors qu'en Ligue 1, effectivement, bah, tu vas beaucoup plus facilement repartir sur des milieux des doubles pivots plutôt défensifs et moins faire confiance à ce type de joueurs-là quand t'es en deuxième partie de tableau.
Après, se pose aussi la question des joueurs qui sortent de ces projets-là. Tu y avais au moment la hype, c'était sur les petits qui étaient formés au Barça. Maintenant, il y a celle sur les petits qui sortent de City parce qu'ils ont 14 000 joueurs en prêt. Est-ce que c'est des joueurs qui sont prêts à contribuer dans n'importe quel contexte ou pas? Et c'est aussi ça une carrière. Si tu es formé juste pour un seul modèle en général, soit tu es une superstar, comme pouvait l'être Busquets, soit tu es un joueur correct et à ce moment-là, tu as beaucoup de mal à vivre en dehors du cocon dans lequel on t'a formé, dans lequel on t'a créé, on t'a mis dans les conditions optimales. Il y a peut-être aussi une question à se poser sur comment on forme les joueurs. Est-ce qu'on les forme pour notre modèle ou est-ce qu'on les forme pour qu'en plus ils puissent réussir dans le maximum de contextes? Et y a des côtés positifs et négatifs aux deux. Quand tu crées pour un modèle, tu as une identité. Quand tu crées pour un modèle, tu as aussi des joueurs qui risquent de tomber et d'avoir leur carrière brisée à 22-23 ans parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas fonctionner ailleurs. Après, quand tu formes pour les joueurs de manière individuelle, t'as pas d'identité de jeu, mais par contre, tu as des mecs qui peuvent jouer un peu partout. Et c'est un peu la différence entre certaines formations latines et la formation française, par exemple.
Mais enfin, tu vois, si nous on se pose la question est-ce que Manu Garcia, genre, est soluble dans le football français, etc., est-ce qu'il a été formé pour performer dans le plus de contextes différents? Je suis sûr que s'il existe un Visto del Banquillo en Espagne, je l'ai tenté, hein, je parle pas espagnol, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, qui fait un truc sur Niagnon, ils vont se dire pareil, ils vont se faire Niagnon a été formé en France, machin. Bon, je vais pas dire qu'il a pas de pied, mais par rapport à pas mal de défenseurs centraux espagnols, il est
Mais après,
un
tu vois,
peu moins
la
agile.
France sort tous les profils en fait. C'est ça le peut-être involontairement parfois, mais elle va sortir du Niagnon, puis elle va sortir du Saliba, puis elle va sortir du Langlais, puis elle va sortir du Laporte. Enfin, Laporte était pas est pas sorti du foot français, mais l'anglais est un peu dans le même profil. Donc c'est y a un peu de tout qui sort en France. Peut-être pas aussi grâce à la mixité, la différence entre les formations qui sont pas toutes réglementées et formatées. Dans d'autres championnats, tu sais que tu as quand même un modèle très très clair sur qui peut jouer et comment on va jouer.
Très bonne réponse. Numéro 9, alors là, ça va être un sujet de débat acharné puisque deux personnes l'ont mis très haut et une l'a boudé avec mépris, avec un insolent mépris. Alors, je vais commencer par celui qui était le plus positif. Numéro 9, Yann Caramo, Raphaël. Dis-nous pourquoi est-ce que Yann Caramo mérite d'être là avant que Florent fasse un coup de gueule.
Déjà pour énerver Florent, parce qu'il a mis Mawassa, donc je voulais me venger. Non, Caramo, parce que Mais ça, c'est vraiment sur les qualités pures. Là, c'est vraiment sur une projection où tout tourne bien pour la carrière de ce mec et qui se remet à l'endroit au maximum. Là, on juge vraiment les qualités sportives, techniques et athlétiques. Et je trouve qu'il a une vitesse d'appui, une qualité de pied exceptionnelle. C'est peut-être pour ça qu'il est parti si jeune à l'Inter. Après, dans les prises de décision, dans la vision du jeu, peut-être aussi dans sa manière de se comporter à l'intérieur d'un groupe, on a vu que ça pouvait poser problème. Ça énerve d'ailleurs quelqu'un qui va aux poubelles s'énerver, là. Je pense que c'est peut-être un pote de Flo. Mais voilà, c'est plus le côté intelligence générale qui va peut-être poser problème, mais aussi pour ça que Flo l'a boudé.
Florent, vas-y, c'est ton moment. Qu'est-ce que tu as à dire sur Caramo? Alors juste, déjà, Raphaël et moi l'avons mis assez haut. Moi, je l'ai aussi mis assez haut parce qu'il a malgré tout cette wildcard Inter où, quand tu as signé dans un club comme ça, même si tu n'y joues pas, tu peux être amené à être prêté donc à Bordeaux. Alors que si tu es à Bordeaux, tu es prêté a priori dans des clubs inférieurs. Donc je me dis qu'avec cette espèce de passeport Inter, il peut pendant au moins 2-3 ans, même sans être bon, retrouver des clubs et disons qu'il aura plus de chances que certains joueurs qui, eux, doivent gravir les échelons. Lui, paradoxalement, il a déjà cette possibilité-là de bénéficier un peu de cette carte de visite.
Oui, moi de toute façon, je vais absolument pas remettre en question tout ce qu'a dit Raph sur ses qualités. Elles sont indéniables et on les a vues sur 2-3 matchs peut-être dans la saison, notamment le match à domicile face au PSG, où il avait été très bon et je sais plus qui est-ce qu'il avait martyrisé parce que je ne sais plus sur quel côté exactement il était, mais il avait martyrisé un défenseur parisien pendant pas mal de temps. Maintenant, justement, je vais rebondir, c'est sur tout le reste, sur l'aspect mentalité, l'aspect intégration à un groupe, à un projet. Si tu le perds, je pense, une fois dans la saison, tu ne le retrouveras pas. Et je pense qu'en termes de performance, il est vraiment en deçà de ce qu'il aurait dû faire. Alors certes, en expected goals, il s'en sort pas trop mal parce qu'il est toujours à 0,33 par 90 plus 0,15 en expected assist. Donc ça l'amène à 0,48, c'est plutôt pas mal. Mais au final, on a juste 3 buts, une passe D sur l'ensemble de la saison. Son dernier but, c'est un but qu'il inscrit quasiment en solo en rentrant en jeu. Je crois que c'est à Angers et ça permet à Bordeaux de prendre 3 points qui sont importants quand tu vois où est Bordeaux aujourd'hui. Mais derrière, il n'y a plus rien, quoi. Et à partir du moment où il a failli se faire dégager se faire envoyer de son prêt à la fin du mercato parce que ça se passait mal dans le groupe et qu'il avait fait je sais plus quoi, mais
Je crois qu'il était sorti à Paris une
oui,
fois,
pendant
il
un
a fait le match
match
de son
ou
club.
une histoire comme ça, enfin bref, c'est pas très important, mais oui, j'ai de gros doutes sur sa capacité à simplement rester sérieux et concerné tout le temps d'une saison, histoire de faire une saison pleine, parce qu'aujourd'hui on est en donc en On est 3 ans après sa première saison à Caen qui lui a permis d'éclore. Et au final, sa meilleure saison, c'est toujours sa première à Caen où il a mis 5 buts et 4 passes D en 35 apparitions. Et là, pour l'instant, il ne montre pas de signe de progrès. D'ailleurs, en expected goals et expected assists, il avait les mêmes chiffres que cette saison. Donc pour l'instant, on est sur un joueur qui stagne.
Après, je pense qu'on l'a mis aussi avec Christophe aussi, parce qu'en termes de talent pur, sur les 15 joueurs de
Ah ouais,
stop,
non, mais
il est dans le top 6-5, et malheureusement, il y a d'autres variables qui font qu'il n'est pas là où il devrait être.
c'est indéniable, mais voilà, il y a aussi la mentalité, le sérieux, le professionnalisme qui entrent en ligne de compte. Et c'est aussi pour ça que moi, en plus, je l'ai pas mis dans mon top 15, mais j'ai même pas hésité à le mettre. J'ai totalement oublié de le mettre, alors qu'en effet, c'est un 98. Mais en talent pur, il n'y a rien à redire. Et tu le vois, mais tu ne le vois que trop peu dans la saison. Tu le vois sur un match le dimanche soir, quoi. C'est un joueur de dimanche soir, aujourd'hui.
Et puis c'est vrai que 98, alors objectivement c'est jeune, pour notre top c'est plutôt âgé, et de manière générale
Dans le foot, c'est de plus en plus vieux quand
c'est
même.
ça, le foot, j'allais dire français, mais le foot international
Ouais.
produit des ailiers de ce niveau-là plus jeunes que lui tous les ans, quoi. Alors pas forcément du niveau de Sancho évidemment, mais chaque année il y a des joueurs créatifs avec le ballon sur le côté qui émergent et qui sont plus jeunes que lui et qui, à 18-19 ans, ont déjà ces qualités d'explosivité, qui repiquent dans l'axe, etc. Donc c'est sûr qu'il n'a pas non plus 1000 années devant lui, même si en comparaison d'ailiers comme Candreva par exemple à Inter, il pourrait, dans un style différent, il pourrait faire le match, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il va arriver à 22-23 ans, et s'il n'a pas passé le cut, il pourrait être doublé par plus jeune que lui et plus sérieux. Numéro 8, alors là, j'ai l'impression qu'on passe un cap quand même au niveau du talent des joueurs et au niveau surtout de la régularité dans la performance dès cette saison. Raphaël, c'est Ismaïla Sarr.
Alors non,
Non,
c'est Malang
c'est ma
Sarr.
langue.
Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas cette introduction.
Ah! Ah, c'est terrible. Oui, effectivement, c'est Malang Sarr.
C'est
On ne
Malang
coupera pas
Sarr.
au montage, c'est pas grave. Je
Non,
me suis
mais
trompé dans mes
en
Sarr.
plus, tu l'as dit avec une assurance que je me suis dit, ah bon, il est d'accord, il est si bas que ça, j'ai failli douter. Mais j'ai le tableau devant les yeux et c'est Malang Sarr. Malang Sarr qui avait disparu du top la saison dernière, avec une saison difficile à Nice où il avait peu joué. Je pense que c'était la dernière de Favre où il avait été un peu oublié par Favre, et en même temps ses performances méritaient pas forcément de rester dans les mémoires la saison dernière. Il était pourtant là il y a 2 ans de ça dans le top, il était dans le top 10 même quand il était très jeune. Malang Sarr c'était à 99 si je ne m'abuse, ouais, janvier 99. Alors cette saison il est titulaire dans une équipe de Nice qui est pas emballante, flamboyante, mais qui en tout cas défensivement est une des meilleures équipes de Ligue 1. Il a joué 29 matchs titulaires et il y a 2500 minutes. Donc c'est pour la régularité qu'il est là. On connaît son talent, on connaît sa capacité pour relancer. C'est un défenseur central gaucher qui peut également jouer latéral, mais à chaque fois qu'on l'a vu jouer latéral, j'ai l'impression qu'il a pris le bouillon. Je me souviens notamment du match face à Justin Kluivert qui était terrible en tour préliminaire de Ligue des Champions.
Mais ça
Donc
remonte justement.
à terme, ce sera un central. Et je pense qu'il a aussi des qualités de vitesse liées à sa taille. Il est plus petit que d'autres et donc moins long. Et en général, ça va vite. C'est quand même rare le profil Varane où tu es à la fois très long et très rapide. Là, 1m82, c'est quelqu'un qui peut jouer un peu dans tous les contextes. On l'a vu avec Puel où il était chargé de pas mal de choses balle au pied. On l'a vu avec Favre où il fallait être un peu moins expansif derrière. Par contre, il pardonnait moins les erreurs. Et là, il est avec Vieira qui a du mal à créer un jeu offensif, mais qui reste sur des principes qu'il a empruntés à City, à New York là-bas. Donc voilà, pour sa capacité à s'adapter et sa régularité à cet âge-là, je l'ai mis là. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être plus haut dans 3-4 ans que les Badiachil, les Saliba et compagnie.
Florent, qu'est-ce que tu as à dire sur ma langue et non Ismaïla?
Pas grand-chose de plus par rapport à ce que disait Raph, simplement mentionner que s'il avait passé une saison compliquée avec Favre l'année dernière, c'est notamment parce qu'il avait été coupable de pas mal d'erreurs qui avaient amené des situations ou des buts directement. Et j'ai l'impression que cette saison, dans le système mis en place par Vieira à Nice, il apparaît moins en négatif en fait sur le terrain, ce qui fait que peut-être que mentalement il a pu retrouver de la confiance. Après, si ça se trouve, peut-être que je me plante et que j'ai pas assez vu Nice cette saison, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression en tout cas qu'il a effacé ça. Il apparaît moins en gros en tant que coupable sur les buts, et ça forcément, quand t'as un jeune joueur, parce qu'il reste encore assez jeune, en étant né en 99. Forcément, pour lui, ça va être plus facile de retrouver de la confiance et d'avoir retrouvé tout simplement la confiance pour passer une nouvelle saison pleine. Et au final, quand t'es un 99 et que t'arrives à 20 ans avec quasiment maintenant 2 saisons pleines en Ligue 1, 2 saisons et demie si on compte sa période compliquée avec Favre, tu peux te dire que tu commences à avoir un bagage intéressant et que tu peux peut-être aspirer à plus à plus haut dès cet été, même si ce serait pas forcément la meilleure idée, vu qu'il y a un projet qui semble se mettre en place à Nice, avec autour de Vieira et du nouveau président, etc. Et peut-être que lui gagnerait à prendre un peu plus d'envergure en restant une saison de plus là-bas.
Quand on avait fait les mercatos, là, les idées pour les clubs, je l'avais envoyé à Lyon,
Oui, c'est
dans
vrai.
un projet où il peut un peu progresser sans être forcément très exposé. Mais c'est vrai que tu parlais des joueurs, c'est quelqu'un qui a. De tous les défenseurs centraux qu'on a cités, alors il y a des 2001, il y a des 99, c'est celui qui a le plus de matchs de haut niveau au compteur. Parce qu'avec Nice, il a joué quand même pas mal de matchs européens et de matchs contre des gros où Nice a rivalisé, c'est aussi important.
Numéro 7, le premier numéro 9 de notre top et l'un des seuls, c'est Florent Raphaël Leao, l'attaquant du LOSC.
Oui, alors là, on nous l'avait présenté comme le Mbappé portugais. On en est très loin. Par contre, on est sur un joueur de surface plutôt fiable. Et Lille en avait besoin de toute façon, parce qu'en début de saison, avec Ruy Fonte et Loïc Rémy, qui était très loin de son niveau de quand il a quitté la Ligue 1 et qu'il avait mené jusqu'à l'équipe de France.
Et qui, je pense, ne le retrouvera plus
Et
jamais,
qui,
a
oui.
priori.
Possible qu'il ne le retrouve pas, mais c'est vrai que Lille avait quand même besoin, je pense, d'un mec de surface fiable pour soit mettre des tapines, soit être là sur des ballons qui traînent, des ballons relâchés, etc. Et c'est vrai que Léao, quand tu prends sa shot map sur Understat, t'es vraiment sur ce joueur-là, quoi. Le joueur fiable qui, quand il va avoir une action à plus de 30-40% de réussite, bah, la plupart du temps, ça finit au fond. Même dans la majorité des cas, et qui en plus peut aussi marquer son petit but un peu plus compliqué de temps en temps. Donc un joueur fiable pour une équipe qui est un joueur dans un contexte idéal, puisque derrière lui les ballons arrivaient à toute vitesse avec Pepe, Ikoné et Bamba. Donc c'est le neuf qui, je pense, cette saison a brillé en étant au bon endroit au bon moment, plutôt bien casté pour le coup. Et on verra la suite la saison prochaine quand Lille devra reconstruire une attaque après la vente probable, très probable, même quasiment certaine de Pépé. Est-ce qu'il aura la capacité de prendre peut-être plus d'importance dans le jeu, ou est-ce qu'il restera ce joueur de surface qui du coup aura moins de ballons et sera donc moins amené à briller? Ça, c'est une question qui se pose. Mais c'est vrai que devant des créateurs qui ont fait une très très belle saison, et d'ailleurs on va en retrouver un peu plus haut dans ce top, bah Léao a fait le job et s'est révélé comme étant un buteur plutôt fiable. Et en Ligue 1, franchement, c'est quand même un profil qui n'est pas visible dans tous les clubs et qui du coup est un vrai apport quand on a un sous la main.
Assez rapidement, moi j'avais fait la comparaison de me dire bon, que c'était pas Mbappé, que c'était plutôt Josie Altidore, c'est-à-dire un joueur qui court assez vite, qui techniquement n'est pas d'une énorme fiabilité, mais qui parfois, à la fois dans la surface, sait globalement se placer, et qui peut avoir des accès techniques, mais dans l'enchaînement, c'est-à-dire ça va pas être dans la remise, dans l'orientation pour faire jouer ses partenaires. Par contre, des fois, il va faire contrôle orienté pour se mettre dans le sens du but et frapper et enchaîner. C'est-à-dire tu fais, ah, il sait faire ça. Sauf que quand tu lui demandes de faire cette technique-là, mais de la mettre au service du collectif pour ensuite décaler un partenaire qui va plonger dans l'axe quand lui décroche, etc., ça c'est encore plus compliqué. Alors, il est né en 99, donc il est encore très jeune. Et c'est vrai que numéro 9, c'est quand même quelque chose d'assez rare à trouver. Alors là, il a 8 buts, ce qui est à la fois beaucoup et peu. C'est-à-dire que c'est pas non plus un total incroyable quand tu vois certains des joueurs de Ligue 1 qui ont marqué autant de buts. Mais
Après
un, c'est dans le
1300,
jeu.
et puis en 1300 minutes, c'est pas mal quand même.
C'est ça, voilà. Un, c'est dans le jeu. Et deuxièmement, il a 16 titularisations, 6 entrées en jeu. Il a débuté la saison blessé. Donc sur ses premiers matchs, il a fallu qu'il se mette dans le rythme. Et on voit qu'à cet âge-là, il y a quand même beaucoup une question de confiance. Parce que ses buts, il les a mis un peu en série. Il y en a un en octobre. Sinon, c'est tout décembre, janvier, février. Il y en a un là qui a été mis face à Nantes le 31 mars. Mais sinon, ça a été quand même des séries de matchs rapprochés où il trouvait de l'efficacité. Donc, il y a des progrès à faire sur le plan de la technique, mais dans ces équipes-là qui ont déjà des créateurs sur les côtés et où tu lui demandes globalement de savoir, un, se placer pour pas leur marcher sur les pieds, et deuxièmement, pour être à la finition des actions quand la balle arrive dans la surface, On voit que non seulement il a cette vitesse pour les transitions, pour aller aussi vite que ses partenaires, là où Rémi partait avec 5 mètres d'avance et arrivait avec 5 mètres de retard, et où Ruy Fonte ne sait pas faire grand-chose d'intéressant sur un terrain de foot. Et puis donc deuxièmement, cette capacité à être un plutôt bon finisseur. Et ça, c'est vrai que Raphaël, des numéros 9, c'est quand même un profil très demandé. Et même si beaucoup d'équipes jouent avec une seule pointe, donc du coup, tu n'as pas besoin d'avoir 10 bons numéros 9, d'avoir un attaquant de surface de cet âge-là. D'ailleurs, on le voit sur notre top, mais même sur celui des années précédentes, finalement, qui émerge en Ligue 1 à cet âge-là, il
Ouais.
n'y en a pas forcément beaucoup.
Il y en a pas du tout, même là je regarde le top, il n'y a pas de numéro 9, on a beaucoup d'ailiers, on a beaucoup de milieux offensifs, des relayeurs, on a zéro numéro 9, là c'est clairement le plus proche de ce profil-là. Alors la comparaison avec Mbappé, je sais pas qui l'a sorti en premier, mais
C'est Luis
c'était
Campos.
Campos.
D'accord, bah pourquoi pas. Mais je comprends pas pourquoi les directeurs sportifs disent n'importe quoi comme ça. Enfin, c'est insensé parce que c'est pas du tout. Même s'il suffit de le regarder 2 minutes sur un terrain de foot pour voir que c'est même pas le même profil, ni même. Enfin bref, peu
Surtout qu'en
importe.
plus, il l'a scouté quand même un petit moment. Hein. Campos,
Non,
il a
voilà.
pas mal de défauts, mais généralement, il va quand même souvent voir les mecs qui recrutent.
Il a dû
Donc
confondre
c'est-à-dire que.
l'affiche avec un autre peut-être. Mais il souffre par contre de la. De la diminution des occasions de Liverpool. Pourquoi? Je pense tout le temps Liverpool de Lille depuis quelques temps. Sur les derniers matchs, là, il a fait un match à 0,48 d'effectif goal, c'est contre Nantes, là, t'en parlais, où il a marqué un but, mais sinon c'est 0,10, 0,12, 0,29, 0,11, 0,11, 0,06, 0,23. La dernière grosse perf expected goals, elle remonte à un match début février contre Nice, victoire 4-0, il avait marqué 2 buts. Donc en effet, là, comme l'a dit Flo, et ça c'est intéressant à voir, c'est est-ce qu'il va réussir à continuer à avoir des positions de tir? Quand Pépé sera parti, quand Lille aura peut-être moins de facilité offensive, quand les équipes se mettront à jouer différemment contre Lille, là aussi ce sera la question. Mais après, il arrive cette saison à tirer 2,6 fois par 90 minutes et 2 fois par 90 minutes dans la surface. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est-à-dire que c'est déjà quelqu'un à cet âge-là qui est dans des bonnes positions de tir et qui va pas s'embêter à tirer dans des positions compliquées. Son profil d'attaquant de surface aide aussi ça.
Après, c'est vrai que quand il n'est pas servi, c'est plus difficile. J'ai deux matchs en tête, à la fois celui de ce week-end contre Toulouse, où globalement, bah, il était invisible, quoi. Il était attaquant de surface, mais la balle était rarement dans la surface. Donc voilà, d'ailleurs, il a pris 2 dans la Voie des Sports. Donc ça situe un peu le niveau de sa perf. Et puis, souvenir aussi du match aller contre Paris, où bon, tout Lille avait un peu explosé face au pressing à la perte parisien. Mais dès que ça arrivait à casser un peu ce pressing à la perte, à ressortir la balle, bah, lui était servi dos au but, sous pression, au milieu de terrain. Et puis, il fallait qu'il fasse le bon choix. Et pas une seule fois, il a réussi à faire le contrôle, à faire la passe pour faire avancer le jeu. Donc c'est vrai que quand son équipe va être mise sous pression, notamment en Ligue des Champions l'an prochain, va falloir voir à quel point il est capable d'avoir une technique dans les petits espaces qui n'est pas simplement le fait de se mettre sur un pied pour ensuite déclencher une frappe. Numéro 6, Boubacar Camara. Tiens, je vais lancer Florent là-dessus. Donc, défenseur qui fait vraiment sa première vraie saison en Ligue 1, même s'il était teasé depuis quelques années par les Marseillais, puisque c'était l'un des jeunes les plus prometteurs du centre de formation. Donc, défenseur polyvalent qui est né en novembre 99.
Ouais, novembre 99, très jeune, souvent comparé à Jules Koundé qui a un an de plus et qui a une place plus haut, pardon, au classement. Mais ouais, bah, il s'est imposé définitivement, je pense, dans la charnière de l'OM sur la phase retour aux côtés de Khaled Tchar. C'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. C'est un joueur qui peut peut-être manquer de taille, mais qui est plutôt efficace malgré tout dans les airs. En tout cas, sur les derniers matchs, il gagne pas mal de duels aériens. Donc il a pour lui une bonne détente sans doute. L'avantage pour lui, c'est que maintenant il semble enfin fixé, comme je le disais à l'instant, à ce poste de défenseur central. Alors qu'il avait joué cette saison, on a pu le voir au milieu de terrain, il me semble, et on a pu le voir aussi au poste de latéral où il était quand même beaucoup moins à l'aise. Bah là il s'installe, il commence à enchaîner les matchs. Il est plutôt propre techniquement, ça y a pas photo. Même si je vois dans les stats de passes réussies qu'il y a Il oscille entre 80 et 90%, et puis il y a un match face au Stade Rennais où il était à 52%. Alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, est-ce qu'il a été ciblé, est-ce qu'il a été visé par le pressing rennais, mais la question peut se poser. Après, je pense que c'est Raph qui pourra en parler plus parce que il l'a vu dans le détail. Moi je l'avais vu, malheureusement la dernière fois pour lui que je l'ai vu c'était face à Bordeaux. Il avait failli marquer en début de match, mais il avait passé ensuite une soirée un peu plus compliquée, notamment face à un Depréville qui était plutôt bon ce jour-là, début avril. Donc, mais bon, il coche toutes les cases, et puis de toute façon, un joueur qui est clos à Marseille, on en avait On en avait un la saison dernière, c'était Maxime Lopez. À partir du moment où un jeune joueur éclot dans le contexte marseillais, normalement, ça va l'amener, ça l'amène forcément à une carrière plutôt sympathique. S'il décide pas de faire n'importe quoi, un peu comme ce qu'a fait Nasri derrière, même si au final, si tu t'arrêtes sur la carrière de Nasri, c'est quand même plutôt propre en termes de club traversé. Mais voilà, il part plutôt bien. Faut espérer que l'OM ne décide pas de recruter un autre défenseur central cet été pour le remettre en concurrence, parce que là, à partir du moment où il commence à s'installer, il faut le laisser à ce poste et lui faire confiance, je pense.
Raphaël, comme disait Florent, au moins a priori, il a provisoirement réglé la question de son poste en se fixant dans l'axe. Alors il était vu, je crois que c'est Garcia qui le voyait plutôt comme un milieu défensif,
Ouais, comme un 6 à l'époque, ouais.
mais quand tu arrives à te fixer en charnière dans un club comme ça, à cet âge-là, c'est déjà intéressant. Et puis le fait d'avoir un autre partenaire de charnière qui est aussi jeune, tu te dis, tu peux peut-être construire là-dessus. Et quitte à refaire l'équipe, bah, tu la referas sur plutôt les postes offensifs, Thauvin, Payet, etc. Mais au moins là-dessus. Si tout va bien, les deux vont pouvoir évoluer et progresser ensemble.
Ouais, puis il a encore quelque chose à corriger, donc les gros clubs vont pas venir le chercher directement. Je trouve qu'il est a tendance à être surpris et à être dépassé dans l'anticipation des déplacements par les adversaires assez régulièrement. Ce qui explique notamment des grosses fautes qu'il est obligé de commettre parfois pour se rattraper. Après, techniquement, on a encore peu parlé, mais c'est quelqu'un qui est capable de bien relancer, de résister sous pression, et c'est aussi pour ça que Rudy Garcia l'imaginait milieu de terrain. C'est qu'il a une vitesse d'appui pour un défenseur central qui est intéressante aussi parce qu'il est petit et que ça pourrait faire dans un autre championnat un latéral droit peut-être. Mais ce qu'on a dit sur lui peut être à peu près dit sur Koundé. Il y a un an d'écart entre les deux, il y a peut-être plus de régularité chez Koundé, plus de sécurité défensive chez le Bordelais. Mais c'est vraiment deux joueurs qu'on a déjà évoqués à plusieurs reprises ensemble parce que c'est des profils qui se ressemblent et qui sont amenés, je pense, à jouer dans le même type de club et de football. Ce qui va être intéressant pour Camara, pardon, c'est de voir s'il va être capable de prendre le leadership de la défense marseillaise, qui est pas bonne cette saison, malgré des bonnes performances individuelles des deux centraux, Khalaitachar et lui, et de voir s'il peut amener plus de sécurité et de leadership, parce qu'il est encore jeune, mais j'ai l'impression que Koundé est un peu en avance là-dessus, et qu'en termes d'attitude, peut-être que le fait qu'il soit avec Pablo, qui est un peu plus âgé, l'aide aussi. Donc voilà, il y a un an d'écart entre les deux, est-ce que Camara va réussir à rattraper ce côté-là? À voir, mais en tout cas, il a les mêmes qualités intrinsèques à peu près que le Bordelais.
Bon, la transition est toute faite, Florent, puisque numéro 5, c'est Jules Koundé, joueur que tu vois à l'œuvre toutes les semaines
Oui.
depuis quelques années maintenant.
Oui, cette saison a été un peu plus compliquée pour lui parce que il a été coupable de certaines erreurs. Alors, on n'est pas tombé dans les erreurs chaque week-end comme pouvait le faire Malang Sarr, mais il a fait 4-5 erreurs, je pense, sur la saison. Qui ont amené directement des buts. Donc voilà, il a traversé 6 premiers mois un peu compliqués. Après, il y avait le contexte aussi du club, hein, avec le départ de Poyet en tout début de saison, qui a été très important pour l'éclosion de Koundé et son installation dans l'équipe. Donc ça a beaucoup joué, je pense, aussi mentalement sur son approche des matchs. Finalement, il est revenu à un bon niveau sous Ricardo et Bédoué, et niveau qu'il arrive à maintenir, même si ce week-end, il a un petit peu pété un plomb en mettant une main Thiago Silvestre dans la surface nimoise pour offrir le penalty du 1 partout à Savanier. Mais bon, là, je m'arrête sur des points de détail de la saison, même s'ils ont coûté des buts et des points derrière. Mais au final, c'est un joueur qui a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Donc, déjà en termes de fiabilité, on parlait tout à l'heure à propos de je ne sais plus quel joueur, mais de la capacité à tout simplement enchaîner. Je crois que c'était Amiens. Koundé est un joueur hyper fiable à ce niveau-là. Il n'a jamais été blessé, je crois, cette saison, puisque de toute façon, il n'a pas raté de match. Très peu suspendu, voire même pas du tout. Il n'a reçu que 4 cartons jaunes sur l'ensemble de la saison, dont un, justement, le week-end dernier face à Nîmes. Et ensuite, en termes de qualité dans les airs, malgré sa petite taille, il a une très bonne détente, un très bon timing qui peut le rendre dangereux sur coup de pied arrêté. Quand les tireurs sont bons, ce qui n'est pas le cas cette saison à Bordeaux, mais l'an dernier il avait marqué, je crois, une ou deux fois déjà. Et ensuite, il y a cette fiabilité à la relance qui en fait un joueur d'autant plus intéressant. Qualité aussi sous pression, qualité de premier contrôle quand il récupère la balle. Je pense que c'est le moment où je le préfère, c'est ses premières touches de balle pour se sortir de la pression et ensuite rejouer vers l'avant. Je trouve très à l'aise à ce niveau-là, toujours très serein. Est très calme dans ce qu'il fait, tout est contrôlé. Donc voilà, en ajoutant toutes ces qualités. Et le dernier point qui pose question, c'est ce nouveau rôle dans le système de Paulo Sousa, où il va être dans un rôle hybride, relanceur, enfin troisième défenseur Stoppeur droit quand l'équipe a le ballon et latéral droit quand l'équipe ne l'a pas. Alors c'est un nouveau rôle pour lui. Jusqu'ici, il s'en sort pas mal. Il y a quelques ajustements sans doute à faire sur le positionnement défensif, mais il a été très peu éliminé dans les 1 contre 1 en tant que latéral en phase défensive. Et puis avec la balle, il s'est fendu de quelques montées intéressantes avec la défense à 3 qui lui permet de porter un peu plus ce ballon et d'aller jusque dans les 30 derniers mètres, même pour donner parfois des passes en profondeur à ses partenaires. Donc voilà, on va voir cette évolution. Maintenant, la question qui peut se poser, et ça c'est une petite information, c'est que à côté de ça, il se pourrait qu'il ne reste pas à Bordeaux cet été et qu'il ait envie de partir ailleurs dès cet été. Donc à voir ce qui va se
passer. C'est la première information lâchée par Viduban en 5
ouais.
saisons d'existence.
À voir ce qui va se passer, mais c'est peut-être un joueur, alors que c'est vrai que le club évidemment n'est pas vendeur, mais peut-être que lui serait plus enclin à partir, à aller voir ailleurs. Tout dépendra évidemment des offres qu'il aura. Je crois que dernièrement, ça parlait d'un club de la taille de Dortmund, par exemple. Donc à suivre, mais c'est peut-être quelqu'un que j'aimerais évidemment voir grandir une année de plus, surtout dans ce rôle-là que lui offre Souza. Mais peut-être qu'il va partir dès cet été. Voilà.
Raphaël, justement, avant que Florent nous balance cette bombe atomique, cette tonneau de bombe sur le départ potentiel de Koundé, je me disais justement que, alors c'est encore assez frais, donc on peut pas dire qu'il soit ultra expérimenté dans ce rôle-là, mais que le pari tactique du changement de poste avec et sans ballon, etc., fait par Paulo Souza, pouvait, pourquoi pas, lui permettre d'occuper un rôle comme Maximovic le faisait du côté de Naples. Alors, est-ce que Koundé serait capable de jouer au niveau suffisant pour être titulaire à Naples? Je suis loin d'être persuadé. Mais c'est une variation tactique qu'on commence à voir de plus en plus au haut niveau. Et justement, de pouvoir tenir sur certaines séquences un poste de latéral et sur d'autres un poste de central peut lui permettre justement de combler un petit peu enfin lui donner une particularité qui lui étoffera un peu plus sa carte de visite que d'autres défenseurs centraux qui, eux, se contentent entre guillemets d'être centraux.
Ouais, ça me fait penser un peu à ce qu'on dit sur certains joueurs NBA qui peuvent apporter de la polyvalence, que ce soit défensive ou offensive, c'est-à-dire qu'il peut défendre aussi bien sur des attaquants costauds, il l'a montré, que sur des profils plus petits sur les côtés, donc il donne cette possibilité. Puis offensivement, c'est quelqu'un à qui tu peux confier la responsabilité de relancer, de porter le ballon. Donc c'est cette capacité à passer d'un profil à l'autre, notamment sur ce que tu peux défendre, qui est intéressante et qui peut donner du coup au coach pas mal d'idées et de solutions. Tu parlais de Maximovic. Je pense que Maximovic, face à des petits profils, par exemple, il est en grande, grande difficulté. Un peu comme Naples l'est de toute façon, généralement, depuis pas mal de temps. Mais d'ailleurs, bien vu, Christophe, la petite victoire de Christophe et Florent, puisque vous aviez misé tous les deux, je crois, dans l'idée sur l'Atalanta, sur la victoire contre Naples. Donc bravo à vous. Mais Koundé, c'est vrai qu'il a cette capacité à défendre un peu sur tout et à prendre en charge le ballon qui peut être utile pour en effet changer de système et pour surprendre l'adversaire surtout. Quand tu te dis, ah, le latéral, si c'est Koundé qui joue latéral, par exemple, défensivement. Bah, on va peut-être pas le calculer parce que tu sais que c'est un gars qui est plus habitué à jouer central et puis c'est quelqu'un qui peut venir à l'intérieur du jeu, qui peut se déplacer. Ça donne plein d'idées possibles à un coach et pourquoi pas d'innover, de faire des choses que peu d'équipes font parce que t'as ce joueur-là qui sort un peu du cadre classique du défenseur central ou même du latéral.
Ouais, le profil n'a rien à voir, mais c'est ce que fait Walker à City, par exemple.
Oui, ouais, c'est vrai.
Voilà.
Qui en plus lui a cette vitesse qui lui permet de faire d'un côté à l'autre et quand
En
il se
plus, ouais.
trompe de rattraper ses conneries.
Numéro 4, pour le lancement, vous réécouterez ce que j'ai dit il y a un quart d'heure, Florence et Ismaïla Sarr.
Oui, c'est vrai, Ismaïla, cette fois c'est le bon. On en a déjà parlé, je crois qu'il y a 2 ans, je l'avais mis dans les. Enfin, je l'avais cité et on l'avait pas retenu. Bon, là, cette saison, il est sur une. En termes de statistiques, ça commence à enchaîner. Il est à 10 buts et 8 passes décisives sur toute compétition confondue, donc en prenant Ligue 1, Europa League. Et aussi Coupe de France, puisqu'il met un but en Coupe de France. De toute façon, je pense que la saison dernière, on a déjà pas mal parlé de ses qualités. Il les a confirmées cette saison. Et ce qui est surtout intéressant, c'est les performances qu'il a pu réaliser en Ligue Europa, où il a vraiment été le joueur le plus dangereux et je pense le plus important du Stade Rennais, que ce soit face au Bétis ou face à Arsenal au tour suivant. Et c'est, je pense, sur ces matchs-là qu'il va peut-être faire son transfert cet été, même si il pourrait aussi tout à fait rester à Rennes, je pense. Tout dépendra de toute façon du nombre de joueurs de ce profil-là qui seront sur le marché cet été, je pense. Mais ouais, simplement un ailier assez classique, mais très très puissant, quasiment imprenable quand il a un contre un et qu'il doit se lancer. Je me demande si c'est pas le joueur qui subit le plus de fautes cette saison en Ligue 1.
C'est en tout cas celui qui a subi le plus de knockouts par game, parce que le gars est quand même allongé très très souvent sur le terrain.
C'est vrai.
Quand il prend une faute, il est toujours déboussolé.
Bah ouais, parfois il en
Après,
rajoute un
il se
peu,
prend des vilaines fautes aussi,
mais
hein,
il prend
parce que sa
beaucoup,
manière
voilà.
de bouger son corps, notamment un peu désarticulé, fait que quand il prend un coup, en général, il est jamais prêt à le recevoir.
C'est ce que j'allais dire, il prend beaucoup de vilaines fautes, et ce qui l'a amené quand même à rater quand même pas mal de matchs aussi, que ce soit cette saison ou même les précédentes, même si au final, là, il est à une cinquantaine de matchs joués cette saison au total. Mais c'est vrai que quand il prend un coup, c'est souvent méchant et c'est souvent au mauvais endroit, pardon.
Puis il n'est pas forcément bâti pour les encaisser, hein. C'est quand même très très
Très
frêle,
fin,
malgré
très grand, très
sa taille.
fin, ouais. Mais
Ouais.
après, il faut qu'il reste comme ça pour rester aussi agile et aussi
Oui,
vif.
c'est
On
vrai.
en a assez parlé de ce genre de choses.
Ouais.
Mais c'est vrai que quand tu vois ces chiffres, voilà, je parlais but passe dé, et après, en termes d'expected goal, c'est pas non plus la folie. Il est à 0,38 au total, et expected goals plus expected assist. C'est notamment moins bien que Caramo, qu'on a évoqué tout à l'heure, alors que le contexte est peut-être meilleur. Ça s'explique peut-être par le fait que ce soit vraiment un joueur de côté,
Ouais, il
qui
joue
reste
très
vraiment
excentré quand
sur le
même, ouais.
côté et. Voilà, il prend la balle, il déborde, il centre, ou bien il fait la différence et il réussit à s'ouvrir un angle de tir. Mais peut-être que le fait de rester vraiment en pur joueur de côté, ça va le limiter peut-être dans son évolution. Après, aujourd'hui, si t'es un club de niveau supérieur du Stade Rennais et que t'as besoin de ce profil-là spécifique pour jouer des 1 contre 1 en bout de chaîne et en fin de construction, forcément, je pense qu'il apparaît comme une valeur sûre quand tu vois les différences qu'il peut faire dès qu'il a un peu d'espace.
Il était 8e l'an dernier dans le top 15.
Raphaël, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'il se pose pas de questions, il est toujours dans la percussion très directe. Alors ça peut parfois être un peu redondant, mais on a vu notamment sur les matchs de Coupe d'Europe, quand ça commence à s'ouvrir un peu, que finalement ces profils-là qui tergiversent pas, qui vont aller provoquer, alors souvent obtenir des fautes, pas toujours être décisif directement sur une action, mais bon là ça se combinait bien avec Ben Arfa qui était plus dans le fait de garder le ballon pour calmer le tempo. Mais quand en plus tu as tendance à gagner tes duels et au niveau dribble réussi, c'est plutôt intéressant. Ça te donne un avenir a priori sur un club à minima de bon niveau parce que tu es capable de faire des différences face à des blocs regroupés. Tu vas ne serait-ce qu'avoir cette capacité mentale à te dire bon bah ça y est, j'y retourne parce que je dois faire la différence et je vais pas uniquement chercher à repiquer dans l'axe, à essayer de jouer alors que
Ouais.
c'est pas forcément mes qualités.
Après, est-ce que vous le trouvez vraiment si fort que ça contre les blocs bas ou les équipes qui défendent de manière repliée? J'ai pas l'impression que c'est le contexte où on l'a le plus vu et j'ai l'impression que Florent parlait notamment de ses performances en Ligue Europa. On l'a vu bon dans ses matchs, surtout quand tu l'as dit Christophe, ça s'est ouvert. Donc je sais pas si c'est, tu vois, c'est le gars qui a succédé, pardon, à Dembélé dans l'équipe de Rennes il y a 2 ans de ça. Est-ce que c'est vraiment un joueur qui est aussi fort que Dembélé dans le 1 contre 1 sur un côté face à une équipe qui est regroupée? Enfin, je sais
Non,
pas,
mais.
je regarde ses stats de dribble réussi, il est à 50%, un peu moins en Ligue Europa parce qu'il a joué contre des meilleurs défenseurs, mais je sais pas si c'est un joueur qui peut jouer dans n'importe quel projet de jeu, par exemple. Je pense que ce que fait Stéphane, mais aussi bien avec lui qu'avec Mbanyang, de pas forcément jouer tout le temps très haut et de laisser de l'espace dans le dos, c'est intelligent vu le profil de ses éléments offensifs. Et je serais curieux vraiment de le voir dans une équipe, comme tu dis, qui joue contre des blocs bas, parce que je sais pas si ce serait un contexte très favorable pour lui. J'ai l'impression qu'il a quand même moins de variété dans ses capacités à dribbler que d'autres ailiers. Donc c'est aussi pour ça que il est quatrième. Et ça me confirme un peu l'idée que ce top est peut-être plus faible que les années passées, en tout cas à un instant T. On en parlera après, mais les top 15 des 2 années précédentes n'ont pas forcément été brillants a posteriori. Mais je me pose encore des questions sur la variété de son jeu offensif.
Après, c'est vrai que je pense que le parcours européen fausse un peu l'idée qu'on en a. Après, ça peut, parfois, c'est plus représentatif un parcours européen parce que tu seras amené à jouer des matchs de ce type-là plus que des matchs de Ligue 1 dans la suite de ta carrière. Mais c'est vrai que l'échantillon, même s'il a beaucoup brillé sur des rencontres face à des adversaires plus prestigieux que
Tu vois,
Nîmes et autres, est plus faible que celui des matchs peut-être plus irréguliers qu'il a disputés en Ligue 1.
est-ce que tu penses qu'il sera meilleur à terme que Wilfried Zaha?
J'en ai aucune idée,
Non, mais
mais je pense pas. Non, je pense
bah
pas.
tu vois, c'est ça que je me dis. Je pense que Zaha est par exemple meilleur techniquement et peut t'apporter plus de choses pour remonter le ballon, même dans des petits espaces où il arrive toujours à sortir de la pression. Et c'est pour ça que Sarr, il avait été très très bon à Metz au début, il avait été brillant à Rennes lors des premiers mois, mais je lui vois pas un plafond énorme.
Oui, non, non, mais Pisa peut jouer dans plus de positions, je pense. Tu mets Za axial, je pense que t'es moins embêté que.
Après, Za est un super joueur, hein, mais c'est
Oui,
pour
non, mais
imaginer un peu le futur de ça.
je pense que Za est déjà de toute façon meilleur à l'instant T, donc c'est pas forcément ultra, c'est pas forcément incroyable de se projeter sur Za meilleur dans 5 ans s'il est déjà meilleur actuellement et qu'en tout cas il est habitué à briller face à des adversaires plus costauds que ceux que Sarr affronte en Ligue 1. Numéro 3, un joueur né à Bondy,
Ah.
mais c'est Jonathan Ikoné. Ce n'est pas celui
Oui.
qui arrivera un peu plus tard qui a brillé dans ce club. Jonathan Ikoné, Raphaël, que tu nous teasais déjà il y a 2 ans,
Ah
tu nous disais le plus
oui.
grand bien quand il faisait ses premières apparitions avec le PSG. Est-ce que
Oui.
tu as suivi son évolution au
Oui,
LOSC?
et puis il avait. Je regardais à l'époque quelques matchs de Montpellier juste pour lui parce que je sentais un truc chez ce joueur qui était vraiment intéressant. Alors, bon, il y en a où on a senti des trucs, on s'est trompé. Bon, là, on a senti des trucs, je pense que c'est plutôt un bon joueur. Après, il était déjà coté quand il est sorti au PSG, c'est sa première apparition. Mais là, cette saison, bon, il a confirmé, tu l'as vu plus que moi, en plus, Christophe, donc tu pourras en parler encore plus en détail. Mais c'est un profil de joueur qui est plutôt rare en France. Je sais pas, on a déjà parlé plusieurs fois dans Vue du banc des préjugés raciaux qui posent problème sur le profil des joueurs. Mais lui, vraiment, s'il devait être mal perçu, ce serait dommage parce que tu pourrais te dire, ah, on est dans le foot français, on forme encore des milieux, des ailiers qui vont vite. Et voilà. Lui, non, c'est plutôt un meneur de jeu. Alors, il a encore des progrès à faire, mais il est capable de faire jouer ses partenaires, d'organiser le jeu, de trouver des passes que sentent peu de joueurs. Il avait ça aussi à Montpellier. Alors, il était plus à Montpellier dans un projet où il fallait casser des lignes, il fallait avancer balle au pied parce que tu partais de plus bas. Lille, tu pars aussi de bas, mais tu es capable d'avoir un peu le ballon dans le camp adverse parce que tu es une des meilleures équipes du championnat. Donc là aussi, je lui trouve une progression. Je l'ai vu très intéressant dans des combinaisons, du jeu court avec des joueurs autour de lui qui peuvent, par exemple, peuvent prendre l'espace à sa place. Je pense qu'il est plus intéressant dans ce contexte-là que dans un contexte où c'est à lui qu'on demande de faire des différences sur le côté. Donc vraiment, c'est une belle progression pour lui. C'est encore un jeune, je crois que c'est un 98, il connaît, c'est la même
Oui.
génération que Mbappé. Donc c'est vraiment un joueur qui, j'espère, réussira. On se plaignait il y a quelques temps de l'absence de joueurs de poche, capable de jouer à l'intérieur, entre les lignes, de se déplacer. Les David Silva qui n'existent pas beaucoup. Lui, ça peut être un joueur dans ce profil-là qui va se rendre dispo à l'intérieur. Et pourquoi pas un destin, s'il y a une grosse progression. C'est aussi un gaucher, un peu à la Bernardo, qui au départ était un joueur qu'on voyait sur le côté, qui pouvait faire des différences dans le 1 contre 1, mais qui en fait est plus intéressant quand il peut jouer à l'intérieur et qu'il a des solutions de passe autour de lui qui peut combiner avec les autres. Donc, c'est vraiment un beau joueur et bon, je suis pas sûr vraiment qu'il ira aussi haut que Bernardo, mais en tout cas, ce sera un sacré joueur de Ligue 1 s'il devait rester dans notre championnat.
Là où c'est intéressant, c'est qu'il a ses qualités pardon, physiques, d'explosivité, etc., qui font que bah, naturellement, tu vas peut-être plutôt, quand il est jeune, le mettre sur le côté pour percuter, pour dribbler, etc. Et là, on voit que dans l'axe, à la fois, il peut avoir le volume de jeu. Enfin, quand ça défend en 4-4-2, il va assurer sa part du travail, etc. Il est pas bête, quoi. Il est conscient de ce qui se passe autour de lui. Mais une fois qu'il est responsabilisé avec le ballon au cœur du jeu, alors c'est pas encore David Silva et ces joueurs-là, mais il y a quand même une vraie qualité de passe. Là, bon, les gens qui suivent pas forcément Lille l'ont vu faire ses passes décisives
Contre le PSG.
face au PSG, parce que voilà, c'était un gros match, un match du dimanche soir. Ils ont pu voir que c'était pas simplement quelqu'un qui courait, même si du coup ça lui permet de permuter avec les ailiers et de pas sortir de ce registre-là. C'est pas comme si c'était un numéro 10 très lent qui est obligé de rester au cœur du jeu. Mais à la fois, il a cette capacité à se retourner, à jouer entre les lignes qui est essentielle quand tu es au milieu où c'est une zone très dense. Il a aussi ce pied, même si c'est pas tout le temps ultra régulier, notamment à la finition, qui lui permet de faire des passes décisives. Alors moi, je suis sur la ligne. Sur le fait qu'il soit plus complet que Pépé et que si tout se met en place, il puisse atteindre un meilleur niveau, je pense pas que ça arrivera. Donc je pense que Pépé fera une meilleure carrière. Mais en tout cas, je lui vois pas, hormis la finition qui là pour l'instant est un vrai problème. Il a marqué 2 buts, mais j'ai souvenir de quelques. J'ai pas ces XG sous les yeux, mais j'ai souvenir de quelques ratés
Il est
assez désastreux.
à 4,53, Christophe, donc
Ouais,
pour 2 buts, plutôt, t'es dans le vrai.
donc voilà. Mais si t'enlèves ça, il n'a pas d'énormes points faibles et tu te dis bah, s'il prend 20% dans à peu près chaque secteur, bon, déjà l'année prochaine, je pense qu'il va rester, a priori, disputer la Ligue des Champions. Mais d'ici 1 ou 2 ans, alors peut-être pas City, mais en tout cas des clubs de très haut niveau européen peuvent s'intéresser à un profil de ce genre.
Alors moi, ce que j'aime bien chez lui, Raph, on parlait tout à l'heure, c'est sa capacité à s'associer aux joueurs qui l'entourent, tout simplement. Et c'est vrai que Lille aujourd'hui le grand classique, c'est Pépé qui va être sur son côté, qui va repiquer intérieur, qui va solliciter un appui d'Ikoné, qui va lui remettre dans le bon tempo, au bon endroit, au bon moment. Et Pépé qui va pouvoir se lancer vers le but adverse et aller chercher, je sais pas, soit une position de tir, soit un coup franc, soit même un penalty. Il y a eu plusieurs actions comme ça qu'ils ont répétées sur la première moitié de saison et qui sont souvent passées. Et c'est vrai que Ikoné, c'était vraiment le joueur parfait pour faire jouer à la fois Pépé, mais aussi Bamba de l'autre côté. Et évidemment, en dernier recours, Léao. C'est vraiment ce quatuor qui a parfaitement fonctionné. La question qui peut se poser, alors qu'on a Ikoné et Léao qui sont dans ce top, c'est comme pour Léao, qu'est-ce qui se passera la saison prochaine? Mais à l'inverse de Léao, il peut avoir un poids sur le jeu qui peut lui donner encore plus de responsabilités la saison prochaine et encore plus d'opportunités pour faire peut-être des stats, notamment briller, à défaut de la finition, peut-être briller sur les passes décisives. Puisque là, déjà 6 passes cette saison, c'est quand même plutôt correct. Et à voir ce qui se passera la saison prochaine, sachant que je pense que c'est 6 passes dans le jeu, puisqu'il ne me semble pas qu'il tire beaucoup de coups de pied arrêtés.
Non,
Puisqu'ils reviennent surtout à Pépé, la plupart du temps.
Pépé Mendes, ouais, le coup de pied arrêté.
Mais ça sera intéressant et de voir surtout son évolution la saison prochaine et le rôle qu'il aura dans cette équipe. Parce que, comme tu le disais, s'il réussit à augmenter de 20% certaines de ses capacités, et notamment s'il réussit à prendre, par exemple, sa part dans la finition de Pépé jusqu'ici en but et passe D, et s'il réussit à en reprendre une partie comme en NBA, certains second couteau reprennent les points laissés par les franchise players et franchissent un palier, bah, ça sera peut-être son cas à lui à Lille l'année prochaine. Et dans ce cas-là, on pourrait peut-être avoir un joueur pas loin du double-double pour rester encore dans le vocabulaire NBA.
Sachant qu'on l'a vu, la qualité de finition est quand même un truc que tu peux améliorer. Moi, je pense à Alassane Pléa, qui était relativement catastrophique dans ce domaine en début de carrière et qui maintenant est quand même très très propre. Donc, c'est une chose sur laquelle tu peux bosser, d'ailleurs, dans un contexte assez simple où t'as pas besoin tu peux même bosser en plus de tes séances. Donc, les qualités athlétiques, encore, c'est difficile de les améliorer en cours de carrière. Après, la finition, c'est de la répétition, donc ça peut s'améliorer même à un âge assez avancé, quoi.
Puis c'est un joueur qui a. Là, je vois un petit peu le détail de ses tirs. Et quand tu vois le détail, en fait, il y a assez peu de tirs non cadrés. Il y a deux frappes qui sont à fort taux de réussite où il est quasiment à 0,5 et ça finit sur le poteau. Donc c'est pas non plus un joueur qui va rater des trucs monstrueux, j'ai l'impression. Christophe, tu confirmeras ou pas, ça je ne sais pas.
Disons, les trucs monstrueux qu'il a ratés, je les ai en tête, mais c'est vrai que enfin, quand tu suis les matchs, tu ne les oublies pas, parce que généralement, c'est dans des matchs où il y avait des problèmes de finition, c'était pas à 4-0 où tu oublies un peu ces ratés-là, mais globalement, c'est sûr qu'il n'est pas non plus dans des positions comme Lewandowski, quoi. Il se retrouve assez rarement vraiment face au but, au point de penalty, et c'est là aussi où ça peut être un petit peu embêtant, dans le sens où, enfin, sur le côté répétition, il n'a pas encore suffisamment d'occasions nettes dans des positions où parfois peut se retrouver Pépé, pour que tu te dises, bah, à force de répétition, ça va arriver et puis il va finir par avoir ce calme nécessaire, parce que je pense qu'il se précipite en fait. Généralement, il a tendance à tirer un peu trop vite, à pas avoir la lucidité qu'il peut avoir un peu plus bas sur le terrain, mais peut-être qu'avec 6 mois, 1 an à se retrouver dans des meilleures positions, bah, ça va lui sembler quasiment normal d'être là. Et
Là, par
puis.
exemple, tu vois, tu.
Sterling, là, il y a l'écart entre 2 ans, même si c'est un poste différent, c'est assez fou en termes de finition.
Après, tu vois, c'est aussi un joueur qui aujourd'hui, tu parlais du fait qu'il ne répète pas trop ce genre de situation. C'est un joueur qui tire assez peu au but pour un joueur à vocation offensive. Il est à 1,5 tir par match, 1,6 exactement. Et quand tu vois, j'imagine que Pépé, il doit être au moins, si c'est pas au double, il doit être à 2,5, 3. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il reprend sa part après le départ de Pépé et s'il prend une partie des tirs que va laisser Pépé à d'autres joueurs, s'il continue évidemment de tourner offensivement. Peut-être que de suite, il prendra plus de repères, il prendra plus confiance et peut-être que les buts suivront et la finition sera meilleure. Mais
Pépé est à 3,16, Flo.
ouais, ben voilà, du simple au double quasiment. Et je pense que Bamba aussi arrose pas
Il
mal à ce niveau.
est qu'à 2, Bamba. Donc mais en fait, il y a très peu de joueurs qui tirent beaucoup à Lille. C'est ça qui est étonnant dans leur performance offensive. Il n'y a personne au-dessus de 3,33, qui est le chiffre de Yacine Benzia et ses 162 minutes avec le LOSC cette saison.
Sacré Yacine. Et puis pour finir sur Ikoné, je crois que j'ai dit dans l'avant-dernière ou le dernier épisode, mais il a claqué un coup franc avec les espoirs et il a failli en remettre hein, avec Lille un coup franc direct hein, là, il y a 1 ou 2 semaines. Donc c'est-à-dire qu'en plus là-dessus,
Ah, s'il récupère
une
les coups de pied
qualité de
arrêtés aussi,
tir.
si tu récupères les coups de pied arrêtés, tu peux aussi exploser tes chiffres.
Voilà, c'est ça. Surtout si tu les tires bien. Et là, visiblement, il est en train d'acquérir une certaine légitimité pour les tirer en club. Numéro 2, Oussem Aouar Raphaël,
Oui, bah,
qui termine sa deuxième saison comme titulaire à Lyon.
Oui, et qui termine sa deuxième saison en tant que deuxième du top 15 à Davis du banc. Je pense qu'il en est très content. À mon avis, il est toujours pas au courant, mais c'est pas grave. Non, Oussem Aouar qui a réalisé une saison en dents de scie. Il y a eu des très belles performances, d'autres un peu plus moyennes, mais c'est un peu à l'image de ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais cette saison. Ça peut être un joueur qui va partir à la fin de la saison malgré ça. C'est-à-dire que ses qualités sont telles que même s'il fait une saison moyenne correcte, tu sais que les clubs vont être sur lui. Guardiola l'adore, d'autres équipes l'adorent. Donc c'est un joueur qui peut s'installer un peu partout parce qu'à la fois il a un volume de jeu, alors il peut-être pas progresser sur son agressivité quand il y a un joueur dans sa zone. Là-dessus, je pense qu'il peut s'améliorer, mais en tout cas, il a un gros volume de jeu. Il a déjà montré qu'il pouvait jouer dans un milieu à deux, même avec un gars comme Ndombele qui n'est pas le plus généreux en termes d'efforts, notamment au moment de se replier, de défendre en reculant. Donc là-dessus, il peut jouer partout, il peut jouer relayeur, il peut jouer 10, il peut même jouer 6. Je me souviens d'un match où il avait joué très bas, je crois que c'était contre Saint-Etienne la saison dernière, si je me souviens bien, où il avait été bon dans le derby, il avait trouvé des passes de loin dans la profondeur et organisé un peu le jeu de l'OL. Donc il n'y a pas grand-chose de différent de dire sur sa saison que sur la saison précédente. C'est peut-être là que c'est un peu dommage, mais sur le reste, il y a une évolution assez classique. Où ça a pas régressé, ça va continuer à s'améliorer. Et là, je pense qu'il est temps pour lui de passer un cap. Alors, soit à Lyon en prenant plus de responsabilités, parce qu'il va y avoir des départs et il aura plus à faire, et peut-être dans un style de jeu différent, soit ailleurs. Donc à voir, mais bon, de toute façon, c'était des trois tops qu'on a fait là sur les trois dernières saisons. Il y a Mbappé, évidemment, c'est peut-être le deuxième plus talentueux avec bagarre avec Malcolm qui vit une saison malheureuse au Barça.
Florent, est-ce que pour Aouar, tu serais plus sur l'idée d'un départ ou d'attendre de voir quel sera le prochain entraîneur de Lyon et selon le profil, faire ce choix-là, même si ça, forcément ça dépendra de la volonté du club de le vendre, mais pour qu'il puisse continuer sa progression et peut-être un jour jouer à son poste de numéro 10?
Non, je pense que le départ cet été n'est pas envisageable et envisagé, surtout du côté de Lyon. Je pense que c'est plus Fekir Ndombele si des mecs doivent être vendus. Du coup, je pense qu'Aouar va rester avec un rôle beaucoup plus important dans l'équipe et peut-être un rôle plus avancé sur le terrain. Tout dépendra ensuite des profils que décideront d'aller chercher les Lyonnais sous la direction de Florian Maurice cet été. Donc ça va. Non, je pense qu'il va rester. Là, il fait une saison correcte. Je pense que c'est un des joueurs aussi qui était les moins motivés jusqu'il y a quelques jours, jusqu'à ce que Genesio annonce son départ. D'ailleurs, face à Angers, il fait une super prestation où il lâche deux très belles passes décisives, d'abord pour Depay, puis à Terrier en profondeur à chaque fois. Donc voilà, c'était peut-être une réaction à ce qui s'était passé quelques jours plus tôt, qui sait. Mais oui, bah, c'est un joueur, on l'a vu, on l'a découvert peut-être cette saison dans un profil beaucoup plus reculé que ce qu'on pouvait penser. Raph a évoqué ce poste de numéro 6, mais c'est surtout le poste dans le double pivot aux côtés de Dembélé qui a été là où il a été le plus souvent placé, je pense, cette saison. Et c'est vrai que, au-delà de l'agressivité dans la zone, il y avait aussi le fait d'être sans doute un peu trop attiré vers l'avant et d'avoir du mal à faire les courses dans l'autre sens sur les transitions défensives. Mais là, c'est un problème aussi qui existait chez Dombélé. Après, à côté de ça, Aouar a été quand même un joueur qui a toujours été attiré par le but. Cette saison, il en met encore 7, alors que l'OL n'est pas forcément une équipe qui a très très bien joué. Il sent très bien les coups dans la surface adverse. On va pas le, enfin, je vais pas le comparer à Van de Beek à ce niveau-là, mais il fait aussi partie de ce genre de milieu qui est capable de faire des stats de cette manière-là. Maintenant, la question, en effet, ça va être de voir si la saison prochaine, il va pouvoir reprendre. Je parlais de la part que va devoir prendre Ikoné dans l'équipe sur le plan offensif. Est-ce qu'Aouar va être encore capable d'augmenter ses stats qui sont déjà très correctes pour un milieu à son poste et qui n'est pas donc numéro 10, puisqu'il finit à 7 buts et 7 passes D quand on mélange Ligue 1 et Ligue des Champions sur l'ensemble de la saison. S'il arrive à faire mieux déjà dès la saison prochaine, c'est sûr que ça deviendra très compliqué pour l'OL de le garder.
Tu peux aussi avoir un départ de Depay qui va également te libérer pas mal de responsabilités offensives, notamment sur les coups de pied arrêtés.
C'est là
Ça
que.
peut augmenter. Mais c'est vrai que si tu as Depay, Fekir et Ndombele qui partent, derrière, le gars qui peut plus prendre la responsabilité du jeu, c'est lui.
C'est lui et tout dépendra ensuite des profils qui lui seront associés. Et là, le mercato lyonnais comptera beaucoup, je pense, même si, avec les qualités qu'il a montrées, je pense qu'il est capable de s'associer avec n'importe qui.
Numéro 1, Kylian Mbappé. Raphaël, est-ce qu'il y a quelque chose à dire qu'on n'ait pas déjà dit et
Oui, bah
faut...
qui va pas réaliser mon pari, je pense, vu comme c'est parti malheureusement. Bon là son triplé met un peu de doute,
Quel
mais
était ton pari? Parce que les gens n'ont
mon
pas...
pari c'était qu'il battrait le record d'Ibra, je crois, de 38 buts. Sachant que au départ quand j'ai dit que j'allais prendre ce pari, je pensais que c'était 36. Donc comme quoi il faut rechercher les sujets avant de les proposer.
Il a
Donc
30.
il est à 30. Il reste 5 matchs. Sachant que je pense qu'il va pas forcément tous les jouer. Il y a la finale de Coupe de France qui arrive, donc à voir. Donc voilà, il reste 5 matchs pour marquer 8 buts, ça va être difficile. Après, on a parlé beaucoup de. Mais c'est peut-être le joueur qui en a le plus parlé cette saison. Il n'y a plus grand chose à dire sur lui. Il est encore premier du top. Il était premier du top l'année dernière, c'était mérité. L'année d'avant aussi, quand il jouait à Monaco et pas au PSG, comme nous le ferons remarquer des tweets au Monégasque assez énervés. Désolé, mais on s'est trompé. Non, mais voilà, Mbappé qui a fait une saison. Bah, la nouveauté, c'est qu'il joue maintenant plus numéro 9, notamment depuis la blessure de Cavani. Et c'est ici que sera son avenir. Là, je regarde les stats. Il a joué 23 matchs en position de numéro 9. Il est à une dizaine sur le reste en tant que milieu offensif sur le côté ou attaquant. Donc voilà, c'est l'évolution de cette saison. Et ça, il a montré d'ailleurs qu'il pouvait être très bon dans ce contexte. Et je pense que c'est là qu'il s'installera. Et je l'espère. Donc la question pour lui et pour le PSG, c'est quid de Cavani dans cette idée de progression pour Mbappé?
Florent, est-ce que tu as quelque chose à dire?
Bah, simplement qu'aujourd'hui, alors certes, il va certainement pas rattraper le record d'Ibrahimovic, mais quand tu compares les dernières saisons d'Ibrahimovic avec la saison d'Mbappé aujourd'hui en termes d'expected goals ou
De minutes jouées, hein, parce que
oui, de
Mbappé,
minutes
c'est
jouées.
que 2100 minutes là, cette saison, c'est fou. Et 37 actions décisives.
Il en a moins joué, ouais. Mais il est déjà sur. Enfin, il a déjà des chiffres assez dignes de ce que faisait Ibra dans ses meilleures périodes au PSG, donc déjà ça pose quand même le gars. Après, bon, il y a forcément ce raté face à Manchester United qui pèse beaucoup sur sa saison, même si je crois qu'il marque au match retour et qu'il marque au match aller. Non, il marque pas au retour, je sais plus.
Mais je vais
Bref.
te dire ça, Florent, pendant que tu
Non,
continues
au
ton
retour, c'est
argument.
Bernat
Non,
qui
c'est
marque
Bernat qui
le
marque,
but.
oui, c'est vrai. C'est Bernat qui marque au retour, lui marque au match aller. Non, c'était pour continuer la comparaison avec Ibrahimovic qui passe à côté la plupart du temps des rendez-vous en Ligue des Champions.
Oui.
Bon,
Bon,
voilà.
après, je pense que Mbappé a déjà fait de meilleures campagnes en Ligue des Champions qu'Ibra, rien que sur ses saisons à Monaco. Donc,
Oui, et puis il a déjà une demi-finale de Ligue des Champions dans les jambes, chose que n'a pas non plus Ibrahimovic. Mais oui, bah, qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? Il y a pas mal sur Twitter aujourd'hui, pas mal de révisionnisme sur le potentiel de Mbappé. Ça le compare à des joueurs improbables et qui sont déjà loin d'avoir accompli ce qu'il a accompli jusque-là. Là, je pense qu'il va finir avec le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Est-ce que c'est peut-être pas un des plus jeunes qui va finir avec la récompense, c'est possible. Ça dépend quand est-ce que l'a eu
peut-être
Hazard.
le plus jeune, ouais, il y avait Benzema qui l'avait eu, je pense aussi, peut-être sur
Ouais.
une saison à l'OL, mais c'est clairement, oui, là, en plus, c'est un fin 98, donc heureusement qu'il va sortir du top l'année prochaine, ou c'est s'il était temps, là.
Ouais. Mais d'ailleurs, s'il sort du top l'année prochaine, il va plus rester grand monde parce qu'on va la saison prochaine, on va perdre Aouar, on va perdre
On va
Ikoné,
perdre
on
Koné,
va perdre Sarr, on va perdre Koundé. Il va rester Camara et Léao, quoi.
oui.
Et Malang Sarr. Donc on
Donc là,
verra.
ouais.
Faut espérer avoir pas mal d'éclosions la saison prochaine. Sinon, c'est vrai que ça va être compliqué pour trouver 15 joueurs.
Et Florent, juste pour... Alors, j'avais coupé mon micro. Juste parce que des fans de Ibrahimovic vont t'insulter, Ibra a quand même joué la demi-finale contre l'Inter avec le Barça.
Ah, c'est vrai qu'il l'a
Le
joué, entre guillemets.
fameux 1-3-1-0, l'élimination face à José Mourinho. Je pense pas qu'il en ait d'autres comme ça de tête, mais il y a au moins celle-ci. Il y a au moins celle-ci. Par contre, c'est vrai qu'il n'a pas de finale. Messieurs, donc je fais juste le récapitulatif des 15 noms, là ce coup-ci dans l'ordre décroissant. Mbappé, Aouar, Ikoné, Ismaïla Sarr, Koundé, Camara, Léao, Malang Sarr, Karamo, Garcia, Badiachile, Diaby, Amiens, Saliba et Mawassa. Est-ce que Raphaël, tu as noté le nom des gens que nous n'avons pas pris,
Oui.
notamment
Alors,
ceux que tu voulais voir?
ceux que j'avais mis dans le top, j'avais mis l'Oyodis de Dijon, pour sa qualité. Bon, on va pas détailler. J'avais mis l'Oyodis, j'avais mis Fofana de Strasbourg. Qui j'avais mis d'autres? On a eu une bagarre entre Mawassa et Sofiane Diop pour finir 15e. Mawassa l'a remporté. On n'a pas mis Jeffrey Adélaïde, qui a été proposé par pas mal de gens sur Twitter. Bon, j'avoue que c'est peut-être parce que ça fait plusieurs saisons, plusieurs années qu'on le connaît, qu'on n'a pas été impressionné par ses performances. Il fait la moitié de ses stats, voire plus, là, sur le dernier match contre un match contre Rennes où il fait deux buts et une passe D. Bon, voilà, c'est un profil, je pense, qu'on a déjà pas mal en Ligue 1, et à choisir entre Sarr et Reina Dalid, on préférait mettre Sarr. Après, est-ce qu'il est moins bon que le fond du top 15? Je sais pas forcément. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis sinon? Il y avait des Monégasques qui ont trop peu d'apparitions. Après, sur une impression, je pense que Noah Massengo a montré plus de choses que d'autres qu'on aurait pu mettre dans le top 15. Donc voilà, c'est des profils comme ça. Je sais pas ce que Florent, je crois, avait mis de Tchouaméni,
Ouais.
mais il y a du Alakouche qui a été cité, et on des joueurs comme ça aussi.
On aurait peut-être pu aussi mettre Boubacary Soumaré qui a très peu joué avec Lille. J'en ai parlé dans un podcast précédent, qui, je pense, a un vrai potentiel, ne serait-ce que sur l'aspect physique en box-to-box. Là, face à Toulouse, il a montré deux, trois choses intéressantes, peut-être plus adaptées à la Ligue 1, au jeu de cette équipe, que Thiago Maia, qui était le remplaçant habituel de la paire
Ah,
Checa Mendes quand l'un des deux n'était pas là.
il y avait Nsoki aussi, Christophe, parmi les joueurs qui auraient pu être cités.
Exact, ouais, j'y avais pensé aussi, mais tout ça, c'est. Enfin, l'échantillon est tellement faible que c'est vraiment difficile de se projeter. C'est selon que tu prennes. Il y a des analystes qui disent, en gros, faut pas juger un joueur soit sur son meilleur match, soit sur son pire match. Et le problème, c'est que quand on a 8 à 12 en Ligue 1, si tu enlèves les deux meilleurs et les deux moins bons, bah, l'échantillon de tes matchs moyens est quand même assez limité. Donc, pour cela, on attendra, je pense, de les revoir une saison de plus. On va passer au pari avec notre partenaire PMU.fr. Raphaël, tu n'as, si tu, non, tu n'es pas parié sur le dernier épisode. Donc,
Non.
du coup, c'était moi. J'ai pas forcément brillé. Donc, à toi de reprendre le flambeau en essayant d'être meilleur que moi la semaine dernière. C'est sur deux matchs de Ligue 1 que tu vas partir. Alors, tout le monde part sur la Ligue 1, là, je vois. Le premier, c'est Bordeaux-Dijon.
Bon, non, c'est Bordeaux-Lyon. Compliqué
Bordeaux
même.
Lyon,
C'est
excuse-moi.
Bordeaux-Lyon, puisque c'est l'autre sera.
L'épisode est beaucoup trop long là, je commence à être un peu fatigué.
L'autre sera quand Dijon, le match pour le maintien. Non, Bordeaux-Lyon d'abord, le match entre deux équipes aux saisons moyennes. Alors Bordeaux peut-être encore plus que Lyon, parce que là ils sont en deuxième partie de classement et ils ont vécu pas mal de changements au club et notamment au poste d'entraîneur. Bordeaux qui joue là une équipe de Lyon qui on peut en finir la saison en roue libre. Genesio va partir, certains joueurs sont contents, d'autres pas, certains ont la tête au club, d'autres pensent déjà à leur transfert. Donc je pars sur un pari qui est à la fois risqué et pas risqué, c'est la victoire de Bordeaux, qui a montré de bonnes choses lors de ces derniers matchs, en tout cas dans le jeu. Rembourser, c'est égalité, c'est à 3, la cote est à 3, donc si Bordeaux ne l'emporte pas, je ne perds rien. Mais si victoire, je gagnerai beaucoup. Bordeaux qui a montré notamment contre Marseille, qui était capable de faire des bonnes performances. Je sais que Flo a bien aimé ce qu'ils ont produit dans le jeu lors des derniers matchs, et notamment contre des équipes contre lesquelles ils ont perdu, mais il y a eu au moins des bonnes séquences. Bon, là, ils sortent de deux défaites en Ligue 1 contre Saint-Etienne et contre Nîmes à l'extérieur. Là, ils retournent à Bordeaux, donc pourquoi pas faire cette fois une bonne perf. On a parlé de Caramo, on a parlé un peu de Tchouaméni. Bon, il y a des bons joueurs, c'est pas encore ceux qui ont pris le contrôle, mais il y a des bons joueurs à Bordeaux. Il y a du jeu avec Paulo Souza maintenant qui essaye d'être protagoniste dans toutes les rencontres. Il en a parlé en conférence de presse. Donc la victoire de Bordeaux qui va essayer de prendre le jeu à Lyon, je la tente, c'est à 3. Et si elle ne passe pas, je ne risque rien.
Enfin, si tu risques que Lyon gagne.
Oui, mais je ne risque pas d'argent, quoi.
Le deuxième match, Caen Dijon.
J'aime beaucoup ces onomatopées que tu utilises pour réagir à ce que je dis. Caen Dijon, oui, un match. Je pense que ça va être très 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 tendu, parce que là, celui qui perd peut, à mon avis, se préparer au moins pour un barrage. Sinon, pour la Ligue 2, c'est un match donc à Dornano pour Caen. J'imagine un match. Du coup, assez timide, qui va pas forcément commencer très fort parce qu'aucune équipe ne veut se découvrir dans une telle situation. Donc, je mise sur la période avec le plus de buts, la deuxième période, 1,95. Donc, peut-être un 0-0 à la mi-temps, un 1-0 pour une équipe. Et en deuxième, l'autre équipe forcée d'ouvrir un peu de jeu, de prendre des risques parce qu'il faut pas perdre ce match. Donc voilà, ça peut très bien finir sur un 0-0 où personne ne sera arrangé et à ce moment-là. Je perds mon pari, mais j'imagine quand même un but et je pense qu'il viendra en deuxième. Et que s'il y en a un en premier, il y aura une réaction qui provoquera beaucoup plus d'offensives en deuxième période. C'est à 1,95, c'est pas une énorme cote. Je sais qu'on essaie d'aller tous au-dessus de 2, mais les paris risqués de Flo vont compenser ma prudence.
Et puis, bon, ça avait fini à 0-0, donc le pari ne serait pas passé. Mais ceux qui ont vu le match entre Huesca et le Rayo, deux équipes qui étaient à peu près dans la même situation, alors eux sans la possibilité de faire un barrage, mais vraiment gros risque de descente, confirmeront que dans ces matchs où il vaut mieux gagner, ça peut partir en n'importe quoi. Et les 20 dernières minutes, c'était du but à but, il n'y avait plus personne qui défendait. Bon, personne n'a marqué, donc du coup, dans ce cas-là, ça serait pas. le pari aurait été perdant. Mais disons, dans l'idée, ça prouve que ces matchs au couteau, bah, parfois en fin de match, tu dis, il n'y a plus rien à perdre, il faut absolument gagner. Et du coup, ça se débride. Florent, toi aussi, sur des matchs de Ligue 1, je vais commencer d'abord par la plus petite des deux cotes, c'est sur Nice-Guingamp.
Oui, Nice-Guingamp, Nice qui vient de se faire surprendre à domicile face à Caen, 1-0, et qui reçoit Guingamp qui a absolument besoin de points, puisqu'ils ont 4 points désormais, je crois, de retard sur Dijon, qui est le barragiste à l'heure actuelle. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Nice-Guingamp, enfin, c'est pas intéressant pour ceux qui vont regarder le match, a priori, puisque Nice et Guingamp sont les deux plus mauvaises attaques du championnat, avec 23 et 24 buts marqués depuis le début de la saison. Et quand on prend les 7 ou 8 derniers matchs de Nice, je vais juste vous donner leur score sans citer exactement dans quel sens ça va. Mais alors je cite, depuis le 23 février, on a 1-0, 1-0, 1-0, 1 partout, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1. Donc je pense que vous imaginez déjà vers quoi je me dirige. C'est simplement de dire que même s'il y a eu un Nice-Toulouse avec du grand spectacle, puisque ça s'est fini à un partout, c'est de dire que le Nice-Guingamp va aboutir sur un match à moins de 1,5 buts, donc 1-0, 0-0 ou 0-1, à vous de choisir après, si vous voulez jouer un vainqueur ou le match nul. Et donc voilà, un match qui risque d'être fermé. Parce que bah, on a deux attaques qui ont du mal à simplement être dangereuses et être vraiment compétentes en phase offensive. Donc je vois pas pourquoi ça changerait, surtout que côté Guingampais, je sens bien la stratégie où on va peut-être se dire on va essayer de tenir le 0-0 et peut-être que ça va s'ouvrir après l'heure de jeu et essayer d'en mettre un en contre à la fin pour essayer d'aller gratter 3 points là où Caen est allé gratter 3 points la semaine dernière. Donc voilà, Nice-Guingamp, moins de 1,5 buts et je crois que la cote est à 2,60.
Ton deuxième pari est beaucoup plus audacieux, c'est sur Lille-Nîmes.
Ouais, Lille-Nîmes, bah, la semaine dernière j'avais. Je t'avais laissé un pari qui n'est pas passé au final. C'était Pépé, buteur face à Toulouse et Lille qui s'impose. Et en fait, là, bah, histoire de mettre à l'honneur Ikoné, qu'on a déjà pas mal encensé, bah, c'est de jouer le but d'Ikoné face à Nîmes et donc la victoire de Lille. Et parce que tout simplement, la cote est quand même très intéressante puisque la cote est à 7. Et je me dis que Ikoné qui, face à Toulouse, a eu. A quand même pas mal tenté sa chance puisqu'il finit quand même avec 4 buts et il met 4 passes clés aussi à côté. Alors certes, c'était pas des positions idéales pour frapper puisqu'il finit qu'à 0,21 XG, mais il a eu au moins le fait, enfin pour lui, de tenter sa chance et tenter sa chance assez souvent, ce qu'il n'avait pas fait face au PSG ou assez peu fait face à Monaco ou Saint-Étienne quand on remonte un peu le temps. Donc je me dis que pourquoi ne pas espérer une cote à 7 qui passe, sachant que la semaine dernière, enfin sur le précédent, j'en avais conseillé une sans en faire mon pari principal sur la victoire de l'Atalanta à Naples. Donc là je me dis que cette fois, histoire de pas avoir de regrets, je vais la tenter, la cote à 7, et puis ça me permettra peut-être de rebasculer en positif pour finir la saison, ce qui serait quand même un bon résultat, connaissant les vôtres aussi à côté.
Un petit tacle glissé pour finir, qui fait toujours du bien. On est dans les arrêts de jeu, là, on a dépassé, je crois, l'heure et demie, donc on va assez vite rendre l'antenne, même s'il n'y a pas d'antenne. Comme d'habitude, on est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous voulez bénéficier de 10 euros de free bet sur PMU.fr, n'oubliez pas de rentrer le code VDB, comme vue du banc, comme Van de Beek, quand vous vous inscrivez sur le code promo. Et puis Florent, on se retrouve à deux la semaine prochaine, c'est ça?
Ouais, ça sera même après les demi-finales de Ligue des Champions. Ou alors tout dépendra, peut-être qu'il y aura une demi-finale complètement folle qui nous poussera à en faire un dès le soir même. Mais oui, il n'y aura pas d'épisode preview cette fois, juste débrief. Donc au plus tard, peut-être jeudi, sinon peut-être mercredi soir à voir. Et puis ensuite, ben, on retrouvera un rythme normal pour finir la saison et avec le retour de Raphaël qui part quelques jours en vacances.
Oui.
Raphaël, tu vas te ressourcer un petit peu avant le sprint final.
Je vais partir en vacances pour avoir la victoire de Liverpool contre Barcelone.
Ça marche. Ben merci Florent, merci Raphaël pour cet épisode long et très complet. Et puis ben, à tous, on se donne rendez-vous dans une semaine. À bientôt.
Salut.
Ciao.
Cordialement.
Vous pensez avoir tout compris? C'est le moment de parier sur PMU.fr, le numéro 1 du pari.